Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hello! Bienvenue dans le podcast Intention. Mais en fait, on parle de quoi dans ce podcast?
Et si on arrive juste à donner un peu de bon sens aux gens, bah pour moi, ça, c'est aller vers une alimentation plus saine.
Est-ce que vraiment, on doit encore vous répéter que nous, le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie?
C'est en dehors de notre zone de confort que s'opère toute la magie de la vie. Et les amis, c'est tellement life-changing.
Montrer sur les réseaux que être entrepreneur, c'est archi chouette. Ça, c'est clair et net.
Donc en fait, tout revient toujours à l'alimentation. Encore une fois, c'est incroyable.
Notre santé, c'est 90% d'alimentation.
Ouais, c'est fou.
Et voilà, c'est ça l'ambition de notre podcast. Alimentation saine, épanouissement personnel, entrepreneuriat. On parle de tout ça sans filtre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Bonjour Marisa.
Coucou Isadora.
Bonjour Marion.
Bonjour les filles.
J'espère que tu vas bien Marion, que tu es en forme.
Oui.
Alors ça nous fait hyper plaisir de t'avoir sur notre podcast. Alors Marion, Marion Botanical sur YouTube et sur Instagram. Tu t'appelles comme ça aussi sur Instagram?
Oui, également.
Est-ce que ça te fait quelque chose d'entendre Marion Botanical? Est-ce que toi tu dis Marion Botanical dans ton quotidien? Parce que comme ton mari il est américain... Est-ce que vous dites Marion Botanical?
Non, tu dois dire Marion Botanical. Comment tu le dis,
ouais,
toi?
On n'utilise jamais.
Non, et toi, quand tu te le dis dans ta tête, c'est quoi? C'est Marion Botanical ou Marion Botanical?
Ah oui, Botanical.
Alors, redis-le, s'il te plaît.
Marion Botanical.
Voilà,
désolé, nous sera Marion Botanical.
Non, c'est pas grave, c'est
très bien. Pense que la moitié des Français t'appellent comme ça. Non, c'est vrai que moi, chaque fois que je le vois, ça me fait rire moi-même parce que moi, je sais très bien qu'on dit pas Marion Botanical.
Moi non plus.
Mais au quotidien, je vais pas m'amuser à dire Marion Botanical.
C'est pas grave. Il faut franciser les choses. Hein.
Oui.
Tu sais, à l'époque, quand j'y réfléchis, alors je sais pas vous si c'est le cas. Ben, vous, c'est votre prénom, mais des fois, je me dis, tiens, j'aurais pu mettre un nom français, tu vois, Marion Botanique ou autre.
Oui.
Et des fois, je regrette. Et puis des fois, je me dis non, ça, c'est un peu mon parcours. À l'époque, je partageais sur Instagram uniquement sur des comptes anglophones.
D'accord.
Pourquoi?
Et j'avais une chaîne YouTube anglophone. Et ben parce qu'en fait, j'ai passé mon compte Instagram en public il y a maintenant 4-5 ans parce qu'on avait fait des jolies photos avec mon mari de notre intérieur et je voulais les envoyer à c'était vraiment la déco qui m'intéressait déjà à l'époque, je voulais les envoyer à un magazine en ligne qui s'appelait Apartment Therapy, je sais pas si vous connaissez.
Non.
Et en fait on pouvait postuler pour envoyer des photos de son intérieur et être publié.
D'accord.
Alors on l'a jamais fait. Bon, du coup, et puis je les ai postés sur mon compte Instagram et la communauté, c'était un peu en lien voilà, avec l'architecture d'intérieur. Il y avait déjà le hashtag Urban Jungle qui tournait. Et du coup, quand j'ai mis mon nom voilà, vraiment lié aux plantes, j'ai pensé anglais parce qu'à la maison, on parle en anglais. Et des fois, quand je parle toute seule, je parle en anglais. Mais tu vois, des fois, je me dis, je regrette un peu. Des fois, on ne sait pas. Peut-être que j'aurais fait autrement maintenant, je sais pas du tout.
Mais en même temps, c'est ton c'est pas ton identité toi propre, mais c'est aussi ta sphère familiale aussi qui a...
Ouais.
Tu vois, c'est vrai que peut-être que tu serais au fin fond de la Creuse, mariée à un creusois, on dirait bon, la meuf Marion Botanical...
Arrêtez de parler en anglais
tout le
temps.
Arrêtez de parler le franglais, c'est insupportable.
Ouais, c'est vrai.
Mais toi, ton mari, il est américain, ton fils va parler américain, tu vois ce que je veux dire? C'est au bout d'un moment, ça fait partie aussi de ton truc.
Mais des fois, j'y pense. Parce que tu vois, les Canadiens, par exemple, ils sont vraiment sur un continent anglophone, le continent américain. Mais eux, ils se battent pour garder des mots qu'on n'utilise plus. Je suis sûre que vous suivez des chaînes canadiennes où des fois, les mots sont un peu désuets, on ne les utilise plus. Et en fait, je trouve ça génial. J'ai toute une liste de mots désuets que je dis régulièrement. Parce que je me dis, il faut quand même qu'on garde quand même quelques mots français.
C'est vrai nous, on a ce truc avec Isadora sur les mots français, parce que nous aussi, le Canadien, peut-être moins, à part Victoria Charlton, on regarde, je pense, aucune chaîne canadienne.
Ah oui.
Voilà. Mais c'est vrai que nous, on a notre père, il est camerounais. toute sa famille, du coup, ses sœurs, etc., sont camerounaises. C'est vrai que, mm-hmm. bah, nous, au Cameroun, tu sais, quand t'apprends le français, tu l'apprends avec des mots de l'époque, des mots très soutenus.
Académiques, ouais.
Académiques, exactement. Ouais. Donc, c'est vrai que notre père et nos tantes parlent de façon très soutenue, des mots qu'au quotidien, tu n'emploies jamais dans ton quotidien. Oui. Donc, c'est vrai que nous aussi, on aurait pu avoir un petit dictionnaire de petites choses, que papa, il t'envoie des mots, t'es là.
Pourquoi tu dis ça? Et ça existe même plus.
Tu sais qu'on dit pas genre. Tu sais qu'est-ce qu'il dit parfois des mots. La dernière fois c'était un agenda. Il nous a sorti un mot pour un agenda, mais c'était un mot. Je dis ah mais de quoi tu parles? C'est vrai que Zedora et moi quand on a créé après Intention, on s'est dit qu'on voulait un mot qui soit aussi bien. Enfin non, à la base c'était un mot français. On avait dit on veut un mot français parce que nous vraiment le français c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Même si on dit beaucoup mille prep, mais bon écoutez c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est un mot qui nous tient à cœur et quand on avait trouvé Intention, on s'est dit bah c'est super parce que ça se dit aussi bien en anglais du coup que en français. Donc c'était parfait quoi.
Non mais moi je trouve que c'est bien justement d'avoir cette intention de d'être un peu fier de notre langue parce que vraiment déjà qu'on a du mal à étoffer la langue française, je sais pas si vous savez mais il y a 3 fois moins de mots en français qu'en anglais parce qu'on a du mal à créer des néologismes, des nouveaux mots, c'est lié à l'Académie française. Moi j'en crée souvent, j'ai aucun souci avec ça, mais du coup on est un peu montré du doigt et c'est dommage parce que du coup on n'étoffe pas et on se retrouve à utiliser des mots en anglais parce que des fois il y en a pas de on n'a pas de traduction.
Oui.
Par exemple, en nourriture, mourir de faim, il y a un mot pour ça en anglais, starving. C'est starving. Mm-hmm. Voilà. En français, il n'y en a pas. Tu es obligé d'utiliser 3 mots, mourir de faim.
C'est exactement la discussion qu'on a eue quand on est parti en Irlande.
Oui.
Parce que il y avait des. Tu vois, on regardait des magazines, on a été dans beaucoup de librairies. Et puis, tu avais des magazines, des livres, etc. Et pour peut-être de futurs projets, on regardait les titres. Et les titres, c'est hyper impactant en anglais. Tu as les titres, ça donne envie limite de l'acheter. Même des vidéos YouTube, tu as des titres. Tu es là, j'adore. Je veux. Et toi, après, on se disait, attends, on va faire un peu ce style-là. Traduis-le en français. Traduis-le en français et on était là.
En fait, pour traduire, tu as besoin de 2 fois plus de mots. Parce qu'en fait, il manque des mots. Donc, tu es obligé de compenser par des expressions, genre le verbe to starve, donc être en train de mourir de faim. Tu es obligé de compenser par 3 autres mots, dont un verbe, donc mourir, qui n'a vraiment rien à voir. Hein. On parle de nourriture, on n'est pas en train de décéder. Et ben voilà, il y a...
Ouais.
T'es obligé de compenser. Et ben c'est difficile, je suis d'accord avec vous.
Et pareil c'est vrai que nous, c'était par rapport YouTube.
Je suis d'accord avec vous, pareil pour les titres de vidéos.
Ça, c'est relou, ça c'est vraiment relou. C'est vrai que meal prep, même si on adore le français, le meal prep, c'était beaucoup plus facile pour nous de l'employer que de dire préparation des repas de la semaine, le dimanche.
Exactement. Des fois, je francise. Par exemple, sur les chaînes YouTube de plantes, les plantes tours, c'est très apprécié. Oui. Moi, du coup, je mets plantes en français et tours, même si ça ne veut rien dire, puisque en l'occurrence, ça devrait être le tour devrait être avant tour de mes plantes.
Oui.
Je me dis c'est pas grave, on crée notre truc, il faut aussi créer son truc. Quoi.
Et c'est vrai que là, je te donne un petit défi. Il y a un mot qu'on aimerait trop utiliser en français, parce que nous, c'est quelque chose qu'on utilise, qu'on fait beaucoup au quotidien, c'est le...
Je sais même pas de quoi elle va parler.
Mais si, the tray bake.
Ah !
Quand tu prends une plaque de four, et dedans, tu mets des légumes. Mm-hmm. Dedans, tu mets, je sais pas...
Du poulet,
légumes, et tu fais cuire en 30 anglais, minutes. Ils appellent ça du sheet pan, ou des tray bake. T'as deux mots. Nous, en France, si tu veux faire ça sur une chaîne YouTube, tu dis quoi?
Parce que nous, on en fait beaucoup à la maison.
Beaucoup.
Et on s'est dit, faudrait trop qu'on crée une vidéo. 3 recettes de plats qui vont au four. C'est nul, c'est moche.
Dans la même plaque de cuisson.
Ouais, voilà c'est ça.
Je vais réfléchir.
Tu vois,
si
c'est...
Si je trouve une solution, je vous la donne, promis. Je pourrais la déposer.
Ce qu'on retient là, c'est que tu parles beaucoup des mots. Donc, je me rends compte que tu es donc une plante lady, parce qu'on ne l'a pas dit. Mais tu es aussi professeur des écoles. Et on le ressent, la façon dont tu parles depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, finalement, qui es-tu?
Qui es-tu, Marion Botanical?
Marion Botanical.
Oui, alors donc moi, c'est Marion. Quel âge j'ai? J'ai arrêté de compter après 20 ans. Donc j'aurais 33 ans cette année, pardon. Donc, je suis enseignante, à l'école primaire et maternelle. Et puis, il y a 3 ans, j'ai décidé de partager sur les réseaux, donc d'abord sur Instagram et ensuite sur YouTube, des petites connaissances sur les plantes, parce que j'avais de plus en plus de copines qui me posaient des questions quand elles venaient chez moi, ou des collègues qui venaient dans ma classe, il y avait déjà beaucoup de plantes. Et du coup, j'ai commencé à partager sur Instagram. On m'a demandé ce fameux plant tour, je l'ai filmé. Alors, c'est une catastrophe, cette vidéo était vraiment, le son était horrible. Je l'ai laissé pour la mémoire, mais... On peut le trouver sur la chaîne, c'est une des premières. Et puis, du coup, je l'ai publié sur YouTube en créant une chaîne YouTube parce que je ne savais pas où publier. Puis à l'époque, IGTV, ce n'était pas hyper bien fait. Et honnêtement, moi, j'avais un tout petit téléphone, je n'y voyais rien. Je me suis dit, tiens, je consommais déjà beaucoup de YouTube pour d'autres pans de mes intérêts, pas forcément les plantes. Et puis après, bah voilà, on a commencé à me demander des vidéos à thème, des petits conseils. Donc, j'ai continué ça pendant à peu près un an et demi avant le premier confinement. Après, le premier confinement est arrivé et là, j'ai été rejoint... Enfin, ça a continué de se faire progressivement parce que vraiment, YouTube Plantes, c'était pas un truc hyper... Quand on avait une question plante, les gens n'allaient pas forcément sur le moteur de recherche YouTube. C'était plutôt sur Google ou sur... Puis moi, j'ai pas de site internet, donc je n'étais pas spécialement bien référencée. On n'allait pas tellement sur Instagram non plus pour avoir des infos plantes. Mmh. On avait plutôt acheté un magazine ou un livre. Du coup, ça s'est fait vraiment progressivement. Avant d'avoir 1000 abonnés, franchement, il s'est passé des mois et des mois. Mais moi, je suis têtue, je suis passionnée. Donc, quand il y a un truc qui me plaît, c'est pas grave. On est trois à me suivre, il n'y a pas de souci, je continue. Je faisais 2 vidéos par semaine à côté de mon temps plein, du coup, d'enseignante. Et au bout d'un an et demi, pendant la pandémie, donc j'étais enceinte, donc j'ai été rapidement en arrêt maladie, puisqu'à l'époque, bah, je vous rappelle qu'on ne savait pas trop ce que c'était, ce virus.
Oui, c'est vrai.
Encore plus pour les femmes enceintes. Et du coup, il fallait que je passe le temps, quoi. Moi, je suis hyper active. Donc, j'ai continué de me mettre là-dedans. Et puis, j'ai demandé un cumul d'activités à mon employeur, donc l'Éducation nationale, pour pouvoir mettre une pub au début de la vidéo. Mm-hmm. Donc, pour ça, il faut être micro-entrepreneuse, parce que c'est les pubs YouTube, c'est régi par Google Irlande, je crois. Donc, il faut avoir un statut spécial. Et je me suis dit, tiens, après un an et demi de créer du contenu gratuit sur Internet, 2 fois par semaine, je vais peut-être mettre 1 ou 2 pubs. Surtout que ça ne coûtait rien à mes abonnés. Il fallait juste regarder la pub ou pas. Et c'est là où j'ai commencé un peu à prendre ça au sérieux en me disant, tiens, au début, je voulais prendre un congé parental de 6 mois pour bien installer mon allaitement. Et je me suis dit, ça pourra faire un petit complément de revenu parce que le congé parental, on touche peu ou rien. Je crois qu'après... quelques mois, j'ai plus rien touché. Je me dis, ça peut être, ça prend du temps. Mmh. Et puis au début, je me suis dit, ça va me permettre d'investir dans la chaîne YouTube, acheter des éclairages, acheter un micro, tout ça, parce que tout était de ma poche. Alors après, c'était un hobby, donc souvent on dépense pour ses hobbies, mais quand même. Et ça a continué de grandir. Entre-temps, j'ai continué mon congé parental. Finalement, je me suis découverte maman en Louvre. Je ne pensais pas, mais on ne sait pas avant. Hein. Et mon fils a 20 mois, je suis toujours en congé parental. Et voilà, toujours en micro-entreprise. Et puis, mon livre est sorti en janvier, du coup.
Dont on va parler, évidemment. Parce que du coup, ça, c'est vachement intéressant, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les personnes avec qui on partage des épisodes de podcast comme ça. C'est que finalement, à chaque fois, je me dis toujours... Parce que quand t'es dans le truc, tu t'en rends pas compte. Mais en fait, quand tu comprends les parcours de tout le monde, tu te rends compte que quand tu fais quelque chose avec passion, en fait, même si tu vois que personne, au début, n'adhère,
oui.
Beaucoup de gens... peuvent baisser les bras, oui. Et dire mais les filles, comment ça se fait que comment vous avez réussi vous sur les réseaux, nanana. En fait, au bout d'un moment, tu fais des choses, même si t'as 2 likes, tu les continues parce que Isadora, moi j'ai pas connu ça personnellement parce que Isadora a commencé de son côté toute seule en prenant à l'époque ses assiettes où son mec lui disait Mathieu, pourquoi tu fais ça, enfin je veux dire, il y a personne qui like ma pauvre fille.
Il se moquait de moi quand je lui disais t'as vu j'ai 5 likes, il me disait
ouais super.
Et c'est vrai qu'elle a continué, comme ça. Ensuite, elle a pu créer Snackies. Quand tu as créé Snackies, il y avait déjà cette petite communauté qui ont permis d'être les premiers acheteurs. Mais si elle avait arrêté parce qu'elle a vu 5 likes et que s'est dit, bon, ça prend pas, il n'y a personne qui en veut, tu serais pas là où tu es aujourd'hui.
Ah non.
Et après, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, j'ai pas connu ça parce que dès que je suis arrivée, la chaîne YouTube, tout de suite, elle a fonctionné. Donc, j'ai pas connu ce truc des peu de likes, moi.
Et puis, c'est vrai que c'était une autre époque aussi. Oui, 2015, c'était une autre époque où on s'en foutait un petit peu des likes. C'est-à-dire qu'il y avait pas ce côté de likes. Moi, je voyais bien sûr qu'il y avait 5 likes, mais pour nous, c'était
le partage vraiment.
C'était génial en plus d'avoir 5 likes, 10 likes. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai eu mes premiers 100, t'es là, mais il y a 100 personnes qui ont liké. Aujourd'hui, t'as 100 likes, tu te dis, ah, t'es has-been.
Oui, c'est ça.
Un flop.
C'est un flop. Ta photo est un flop. Retire-la. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment le côté, j'ai envie de partager ça, ça me tient à cœur. Et comme toi, je le faisais en même temps que mon travail. Et à l'époque, c'était un post, c'était même pas un post tous les jours, c'était un post matin, midi, soir, puisque tu montrais tes assiettes tout le temps. Ouais. Donc c'est comme toi, ce côté où... On faisait les deux, mais parce qu'il y en a un, c'était un travail alimentaire, pour moi,
rémunéré.
Et un, c'était ma petite passion, le petit hobby, comme si je faisais du sport, quoi. Et justement, toi, tu dis que tu cumulais les deux. C'était quoi ton organisation? Parce que moi, je me dis, je suis
prof des écoles. En plus de ça, je fais deux vidéos, c'est pas un post, c'est des vidéos. Mmh. Comment tu t'organisais pour, bah pour être à la fois micro-entrepreneur, mais à la fois maîtresse des écoles? Je sais pas ça, comment on dit, bah, en fait, enseignant.
Au début, c'était pas facile. Alors, je suis un peu hyperactive, du coup, j'insiste là-dessus, parce qu'il faut pas... Voilà, chacun est comme il est, il faut pas se comparer et tout. Mais du coup, ouais. Alors, quand j'ai commencé, ça faisait déjà 5 ans que j'enseignais, et ça faisait 2 ans que j'étais dans le même niveau. Du coup, j'avais un peu plus de marge. Par exemple, pendant mes vacances, je travaillais, donc j'avais des vacances régulièrement, hein, comme les profs. Je travaillais une semaine et la semaine d'après, j'avais du temps pour moi. Et comme c'était devenu un petit peu une passion, je m'organisais là, je filmais à l'avance pour être tranquille pour la période, un peu comme je m'organisais pour ma classe. Mm-hmm. Mon mari n'avait pas les mêmes vacances que moi, donc j'avais du temps, entre guillemets, seul. Sinon, on serait parti et on serait... on aurait fait autre chose, mais et puis certains mercredis, des fois je filmais, voilà, pas très longtemps. La qualité et le montage n'étaient pas ouf, donc ça me prenait moins de temps que maintenant, on va dire, même si maintenant je suis toujours pas professionnelle, mais ça me prend un peu plus de temps. Et puis ouais, je pense que je me prenais un petit peu moins la tête que maintenant, par exemple. Tu vois, je publiais, et l'important c'était de créer un petit rendez-vous avec mes abonnés, ceux qui me suivaient. Si tous les mardis soirs ils s'attendaient à une vidéo, eh ben allez, tous les mardis soirs il y avait une petite vidéo. Si tous les samedis ils s'attendaient à une vidéo, il y en avait une, qu'elle soit bien ou moins bien, ou que je... enfin voilà, c'était l'important, c'était que le contenu soit là, parce que c'était du contenu informatif. Et puis pour les vlogs, parce que j'ai rapidement commencé à faire des petits vlogs de jardinage comme ça, où je montrais un peu comment j'étalais ça durant la semaine.
Ce sont mes préférés. Ce sont mes vidéos préférées, les vlogs.
Et ben là-dessus, voilà, j'essayais de filmer un petit peu chaque jour, que ce soit quand je rentrais ou autre, pour avoir un petit peu du contenu un peu diversifié. C'est vrai que moi, j'ai du mal à me concentrer longtemps. Et du coup, un vlog, par exemple, à moins que le sujet me passionne, mais un vlog face cam qui dure 30 minutes où il n'y a rien d'autre, moi, j'ai du mal à... Bon, déjà, j'ai du mal à faire le montage parce que je m'ennuie au montage. Et si en général, je m'ennuie au montage, c'est un mauvais signe pour mes abonnés, enfin, à mon sens. Et voilà, donc je m'organisais plutôt comme ça. En fait, l'enseignement, quand on est un peu installé, quand on commence à... Même si je refaisais souvent les programmes, etc., puis je changeais pas mal de niveau, c'est quand même un métier qui permet d'avoir une deuxième passion à côté. Et encore heureux, parce que c'est pas pour le salaire qu'on le fait, ni pour la reconnaissance, malheureusement. Mais du coup, bah, ça c'est plutôt cool.
Ah, c'est bien, ouais, ça c'est chouette. Et alors, si on part du début de la jeunesse, de ton amour pour les plantes, comment... parce qu'avant, tu vivais, je présume, avec tes parents, peu importe, maman, papa ou les deux. Mm-hmm. Tu vivais chez tes parents. Est-ce qu'il y avait t'as été entourée de plantes dans ton enfance? Est-ce que c'est quelque chose que t'as développé toute seule de ton côté quand tu as trouvé, enfin, quand t'as commencé à vivre seule de ton côté ou avec ton mari, je ne sais pas? Ou comment ça a démarré, cet amour?
Alors ça, j'en parle de temps en temps en vidéo, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout issue d'une famille de jardiniers. On est plutôt des urbains, tu vois, ma famille vient de Vienne, c'est une ville à côté de Lyon. On a rarement eu des maisons. Quand c'était le cas, je me souviens vite fait de planter des haricots, mais c'est tout, quoi. Jamais eu de plantes d'intérieur. Vraiment, on ne peut pas dire voilà, la main verte qui se transmet des grands-mères jusqu'aux mamans, jusqu'au papa ou jusqu'à l'enfant. Pas du tout. Mais moi, par contre, j'ai toujours bien aimé le côté un peu décoratif chez moi, et en fait c'est pour ça qu'il y a un vrai lien, et je pense que sur ma chaîne ou dans le livre j'essaie de faire en sorte que ça se ressente, parce qu'en fait quand j'étais lycéenne, 16 ans je crois, j'ai demandé à mon père, donc je vivais avec mon père dans les environs de Lyon, de refaire ma chambre pour mon anniversaire. Alors refaire ma chambre, en fait c'était m'acheter un bureau de grande et m'acheter un lit de grande, tu sais, le lit de place et tout qu'on a au bout d'un moment à la fin de son adolescence. Et je me souviens que ce jour-là à Ikea ils vendaient, pardon, je sais pas si on a le droit de dire, dans un grand magasin suédois d'ameublement, ils vendaient des plantes. C'était un petit spatifilum que j'ai encore, une fleur de lune. Et j'en avais acheté une, tiens, comme ça. Et puis je l'avais posée sur mon bureau tout blanc. Et donc, comme j'avais refait la déco de ma chambre, du coup. Et puis je me souviens de m'être dit, mais ça change complètement l'atmosphère de la pièce. Il y a une pauvre plante, mais alors ça change tout. Tout, tout, tout. Et en fait, depuis ce jour-là, donc j'avais 16 ans, à chaque fois que j'ai emménagé, par exemple dans mon studio d'étudiante à 18 ans, dans mon petit appartement d'enseignante à 23 ans, et ben à chaque fois que je faisais un trip chez le géant suédois pour acheter, je sais pas, un canapé lit, un truc qu'on avait besoin, de la vaisselle, et ben je revenais toujours avec des plantes. Ça faisait partie, si tu veux, pour moi, de l'aménagement, de m'approprier un nouvel espace de vie. Ça n'allait pas sans. Et c'est comme ça que bah, j'ai commencé à m'intéresser, tiens, comment je vais la faire survivre, celle-là, et pas la faire mourir, parce que je n'ai aucune connaissance, je n'ai aucune transmission de ma famille, personne ne peut m'aider, mes amis non plus, c'était pas vraiment la mode de l'addiction des plantes, on va dire que voilà, ça a pris quelques... Il a fallu attendre les grandes ventes de plantes, tout ça, pour que les gens commencent à s'y intéresser. Et c'est là, voilà, où j'ai commencé à rechercher, à prendre simplement le nom de ma plante, pour chercher sur les moteurs de recherche quand j'ai un problème, voilà.
Ah, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que moi, les premières fois de ma vie où j'ai acheté des plantes, c'était aussi chez le grand, chez Ikea, puisque pareil, c'était tout. Bah, en fait, à Ikea, il me semble, si c'est toujours le cas, parce que ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée, mais c'était la dernière ouais. étape avant d'arriver à récupérer tes colis et tout ça, quoi. Donc, ouais. Moi, je me souviens toujours de me dire waouh, parce qu'en fait, il y en a tellement, ça fait jungle, c'est beau, et souvent, je disais. On part avec une petite plante.
Voilà.
Mais moi, j'en prenais une qui tenait quelques mois. Et la première fois que j'y allais, début, je refaisais tout le temps ça. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça jamais de ma vie. Mais maintenant que tu le dis, je me rappelle vraiment qu'à chaque fois que je déménageais, on finissait Ikea, on arrivait au niveau des plantes. Bim, je prenais une plante. Souvent une succulente ou tu vois, un truc un peu gras pour me dire qu'au moins, ça peut survivre, quoi.
Moi, je pourrais pas le partager puisque Ikea...
La culture Ikea, tu ne connais pas.
Non, la culture Ikea n'est pas dans mon... ouais. C'est pas dans ma culture, ça, c'est clair et net.
Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu dis que pour toi, une plante change tout. Et je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, pareil, quand j'ai emménagé là dans notre nouvelle maison, j'ai mis ma Sansevieria dans ma chambre. T'as l'avant-après, tu vois, t'as vraiment le... Avant Sansevieria, la grande langue de belle-mère, la grande plante, que j'adore en plus, qui me rappelle le désert toujours un peu, qui me rappelle aussi le Sénégal, tous ces endroits où il fait très chaud. Et aujourd'hui, je me dis, mais il m'en faudrait d'autres dans ma chambre, parce que je trouve que ça donne tout de suite un truc très cocon, très chaleureux, très... C'est un objet de décoration, en fait, pour moi aussi, quoi.
Voilà, c'est ça, ça fait partie un peu de la déco, même s'il y a plein d'autres bénéfices à ça, on va peut-être en parler.
Oui.
Mais du coup, c'est vrai que se créer un petit cocon comme ça, avec un peu de végétal, ça m'a suivi à chaque fois, à chacun de mes déménagements. Et ça a vraiment explosé quand avec moi, ça j'en parlais dans mon livre, quand avec mon mari on s'est installé ensemble, parce qu'on a vécu en longue distance pas mal d'années, et il a fini par avoir un travail sur Lyon, donc après avoir terminé ses études, etc., et on a pu s'installer dans un vrai appartement. Quand je dis un vrai appartement, c'est-à-dire un truc qui fait un peu plus que 20 mètres carrés, ce qui était pour moi le luxe ultime. Et ben là, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir. Là où j'étais restreinte au niveau de la lumière et de la place, ça va. Et alors là, ben, c'est là où vraiment ça a explosé. Voilà, c'est devenu un peu n'importe quoi.
Mais du coup, là, c'est avant YouTube que tu avais déjà autant de plantes que l'on peut voir sur ta chaîne YouTube. Ah ouais,
ouais. Ouais, parce que tu vois, la toute première vidéo, c'est un plan de tour.
Oui.
Il y a déjà une centaine de plans, je pense, 60 mètres carrés. Ouais, je pense quelque chose comme ça. Et voilà.
Mais c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et attends, parce que moi déjà, j'ai envie de dire, parce que autant peut-être qu'aux États-Unis, les gens peut-être ne savent pas, mais peut-être qu'aux États-Unis, et encore, moi, je ne les connais pas, il y a peut-être eu ce truc un peu de plante addict, plante lady, etc. Mais en France, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, tu vois. Je crois que tu es la première chaîne que j'ai... découvert à ce sujet. Je ne sais même pas comment je t'ai découvert, je ne pourrais même pas dire comment je t'ai découvert du tout.
Ouais. Ah si, parce que quand on a eu notre passion des plantes à un moment donné, et on ne savait jamais comment... je pense que c'est avec le moteur de recherche
YouTube. Je pense que YouTube, c'est obligé. Peut-être.
Parce qu'on cherchait beaucoup de trucs sur comment prendre soin de nos plantes, etc. Parce qu'on n'en prenait pas soin, justement.
Et qu'on trouvait ça vraiment... On trouvait que c'était vraiment hyper joli. Et après, on va parler justement de tous les bienfaits des plantes. Mais nous, on trouvait ça déjà hyper joli, comme on disait. Je crois qu'on a beaucoup tous commencé par le côté décoratif de la plante. Je m'en souviens pas. Mais pour moi, avant, à l'époque, à part toi en France, est-ce qu'il y a d'autres chaînes YouTube? Il y avait... Moi, on regardait Marion, on regardait Carole, une fleur parmi les fleurs.
Ouais.
Mais après,
alors,
moi, je connaissais personne d'autre.
C'est une chaîne YouTube qui est là depuis plusieurs années.
Oui.
Et je pense que c'était à peu près la seule qui était déjà en train de publier régulièrement quand j'ai commencé. Et sinon, il y avait déjà pas mal de chaînes anglophones.
Oui.
Ça faisait 4-5 ans. Et puis, il y avait une petite communauté sur Instagram, ce que j'appelle le plan Instagram, mais qui était plutôt tournée anglophone, comme je disais. Il y avait quelques Français, mais je pense qu'ils devaient suivre surtout des anglophones. Il y a eu un livre qui s'appelait Urban Jungle, qui est publié, qui a eu beaucoup de succès. Et, alors, eux, pour le coup, c'est des Européens, mais qui étaient aussi anglophones. Et on utilisait pas mal ce hashtag pour se trouver, donc entre Européens, entre Français aussi, du coup. Ça a commencé un petit peu. Et c'est vrai que ça a beaucoup beaucoup, ça a beaucoup explosé après le confinement, par contre.
Parce oui, que j'allais dire, toi, tu penses que déjà, pourquoi notre mère, quand on lui parle des plantes, pour elle, elle dit, mais vous vous rendez compte que les monstera, que nous, on appelle des philodendrons, elle fait, nous, quand on était plus jeunes, on appelait ça des philodendrons, est-ce que vous vous rendez compte que nous, nos grand-mères en avaient toutes, que c'était totalement has-been, et que nous, ensuite, on a refusé d'avoir ce genre de choses chez nous. Elle fait, mais vous, toutes vos petites misères, les trucs qui tombent, les potos, elle fait, c'est archi-ringard. C'est des plantes de grand-mère. Donc, quand elle a commencé à voir notre passion pour les plantes, elle fait, mais... Elle fait, vous faites trop rire, parce que c'était has-been pour nous. Enfin, vous êtes là en train de vous...
C'est comme un peu toutes les modes et tout, dans les vêtements ou autres. J'avais lu un livre, je ne me souviens plus du titre, mais qui parlait effectivement, les plantes en intérieur, ça commence à l'Antiquité. Ensuite, il y a eu une vraie passion dans les années 70, etc. Et puis ça s'est calmé, ça a fait un petit flop. Et puis après, ça revient, il y a une envie de retour au vert, je pense.
Justement, j'allais te demander.
Moi, je suis très tournée citadin, par contre.
D'accord, j'allais te demander justement pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, parce que le plan Instagram, il est quand même assez impressionnant, je trouve, notamment. Mais pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, il y a un regain d'envie de notre génération, parce qu'on se rend compte qu'on est à peu près tous de la même génération, à vouloir des plantes chez soi. C'est quoi d'où ça vient ?
Moi, je pense que c'est vraiment l'urbanisation. Vraiment, il y a un lien énorme avec ça. Quand je parlais des confinements, de toute façon, les confinements successifs ont fait beaucoup de mal à la ville, hein, parce qu'on était vraiment, on enviait ceux qui avaient des maisons. Et puis, il y a l'envie de... il y a eu aussi... Alors, dans la déco, il y a beaucoup de tendances. Il y a quelques années, c'était vraiment la mode scandinave, hyper épurée, hyper minimaliste. Ça dure encore un petit peu. Et puis, mais comme toutes les tendances, ça va, ça vient. Donc là, on est peut-être un peu plus maintenant sur l'esprit jungle, l'esprit un petit peu maximaliste. Du coup, je pense que c'est en lien aussi avec ça. Mais clairement, il y a un lien direct avec une envie de retour à la nature, ou alors une illusion de retour à la nature, parce qu'on fait comme on peut quand on n'a pas d'accès extérieur ou autre. Et c'est vrai que je pense que c'est directement lié à ça. Il y a aussi l'idée que maintenant, c'est hyper démocratisé. C'est un peu moins cher, par exemple, les grandes ventes de plantes, où on parlait du géant suédois. Donc, quand on est étudiant, on peut s'en offrir une ou deux. Alors qu'avant, on allait chez le fleuriste et puis alors pour 40 euros la plante, on n'était pas sûr qu'elle survive. Clairement, en tant qu'étudiant, on ne peut pas, quoi. Il y a un vrai business maintenant en lien avec les plantes, ce qui est très bien, ça crée de l'emploi. Hein. Mais du coup, je pense que c'est lié à ça. Et puis, l'accès à l'information, du coup, parce qu'il y a un vrai truc quand je parlais de la main verte, et ça, j'insiste vachement dans mon livre, c'est-à-dire qu'il faut que, vraiment, je dis aux gens, moi, je suis comme vous, hein, c'est-à-dire j'y connaissais rien, il n'y a personne qui m'a transmis des choses, je pars de zéro, et si j'y arrive, vous aussi, promis. Ouais. Et du coup, il y a ce lien avec ça, si l'information est disponible, on n'a plus besoin d'être entre initiés pour se lancer... c'est plus, je pense que... Mais ça, c'est lié aussi à Internet, mais en général, parce que je vous rappelle, les filles, que nous, on est nés, il n'y avait pas Internet, en tout cas, pas accès pour nous. du coup, maintenant, tout est disponible. Si on veut se lancer et faire de la menuiserie, on va sur YouTube et on cherche un tuto de menuiserie, enfin, voilà.
Complètement, non, je suis d'accord.
Et quand tu parles, je trouve ça très joli, l'illusion du retour à la nature, je trouve ça très beau, mais d'un côté, il y a une certaine petite, je trouve, tristesse, parce que... On accumule, justement, on en parlera du maximalisme des plantes, notamment, c'est vrai, les urbains, parce que c'est vrai, moi, je trouve que sur les réseaux sociaux, notamment la plante Instagram, là, ou plante Gram, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est souvent les personnes qui vivent dans des petits appartements.
Ou dans des appartements tout court, je trouve.
Des appartements, mais moi, je vois ceux des Américains, c'est souvent des New-Yorkais dans des petits appartements où ils ont plein de plantes, etc. Et parfois, je me dis... c'est l'illusion de vivre un petit peu en pleine nature. Et je me dis, ce serait pas plus simple parfois d'aller justement vivre dans la nature plutôt qu'avoir autant de plantes dans sa maison, même si je sais bien que tout le monde peut pas se permettre d'aller, de déménager ou de partir. Mais quand on a envie d'avoir plus de nature, c'est peut-être plus simple de partir que d'avoir autant... Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça ?
Moi, je pense que tu soulèves un problème plus grand qui est celui de l'urbanisation, c'est-à-dire de l'accès au travail et aux nouveaux métiers. Mmh. Et quoique depuis que la pandémie, on a de plus en plus de télétravail, etc., on s'est rendu compte que non seulement ça réduisait la pollution pendant les déplacements, puis les entreprises pouvaient économiser le prix du chauffage ou des locaux de bureaux, etc. Donc je pense que ça va se développer davantage.
Oui.
D'ailleurs, ça se voit dans le marché de l'immobilier. Maintenant, les gens achètent de plus en plus à l'extérieur de la ville. Mmh. Mais c'est sûr qu'en lien avec l'urbanisation et les nouveaux métiers, pendant des années et des années... le travail c'est dans la campagne, si on avait un métier de développeur, on n'a pas le choix, quoi. Enfin, quoique maintenant, ça va être du télétravail, mais voilà, je pense qu'on habite vraiment là où les métiers sont...
C'est vrai que le métier se trouve dans la ville. Et souvent, d'ailleurs, à Paris, par exemple, nous on a vécu de très nombreuses années à Paris. À Paris, il y a très peu de Parisiens. À Paris, t'as énormément de gens de province qui, au bout d'un moment, quand ils ont fait leurs études dans leur province, que dans une, je sais pas, à Angers, à l'université d'Angers, quand ils ont cherché un boulot à Angers, ils se rendent compte que il y a pas de boulot, donc ils sont partis à Paris, alors que c'était pas forcément de gaieté de cœur tout de suite. Mais
pas forcément. Ouais, ça dépend où est-ce qu'on. Regarde juste dans l'influence, par exemple, les influenceurs, on peut parler de ça parce que. Au départ, c'est un métier qu'on peut faire de la maison. Tu te rends compte que quand tu n'es pas à Paris, tu es quand même vachement isolé de plein d'événements, de plein de... comment on peut appeler de tout ce qui est du network, donc, c'est-à-dire les réseaux professionnels, etc. Finalement, alors qu'au départ, influenceur pour tout le monde, c'est l'idée que c'est génial, on peut travailler à la maison, on peut travailler au fin fond de la campagne, alors qu'en fait, on passe à côté de plein
la
de
réalité,
choses.
La réalité,
Je suis sûre que vous avez une belle idée de ça, au niveau des invitations, des événements, des choses comme ça. On est quand même un peu isolé en étant en province, finalement.
Complètement.
C'est pour tout.
C'est vrai que même Clémentine, quand elle nous avait interviewé, Clémentine Sarlat de la Matrescence, elle nous avait dit, moi, ça m'a intéressé aussi de vous interviewer parce que vous faites partie de ces gens des réseaux sociaux, donc des créateurs de contenu, qui ne sont pas des Parisiennes. Alors, nous, on n'avait jamais fait le relais parce que c'est vrai que nous, on est tellement à Angers, qu'on adore Angers, etc., qu'on ne s'est jamais dit, mais c'est vrai qu'en fait... Tout se passe à Paris et que même, tu vois, là, si tu veux faire un studio de podcast, si demain on voudrait, si demain on voulait se dire, tiens, moi j'aimerais bien aussi aujourd'hui filmer nos épisodes pour avoir aussi des épisodes sur YouTube, etc. Où est-ce que je peux aller dans un studio de podcast? Ils sont tous à Paris. Tous. Donc il faut soit tu crées ton truc, mais c'est vrai que la ville, c'est là où il y a le plus de trucs. Et même Clémentine disait, moi je suis maintenant à Bordeaux et pourtant c'est une grande ville, voilà. Elle dit, les opportunités sont plus les mêmes.
Pareil, moi je suis à Lyon et alors en plus moi je suis dans un domaine comme on disait assez niche, donc c'est sûr que les plantes et le jardinage, mais je rate plein de choses, plein d'invitations, de trucs. C'est pas grave, mais c'est vrai que si on veut en faire un métier à temps complet, c'est sûr que je pense que c'est un peu moins. Donc voilà, c'est juste un exemple de métier où pareil, on est obligé d'être en ville finalement et on n'a pas toujours tellement le choix finalement, mais je trouve que c'est un bon palliatif.
C'est un bon palliatif et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire déjà dans un premier temps, c'est ce que. Tu vois, c'est de se dire, c'est plutôt que se dire, moi je suis en ville dans un petit appartement, parce qu'on parle beaucoup des New Yorkais, parce que c'est vrai qu'à New York c'est tellement cher les loyers, qu'en effet tu vois, ils habitent vraiment dans des petits endroits, comme moi quand j'habitais en région parisienne, je rappelle, j'étais fonctionnaire, je gagnais 1500 balles par mois, je vivais dans un 22 mètres carrés à Paris, en région parisienne. Donc j'avais des plantes aussi dans mon chez moi. C'est vrai que tu te dis, plutôt que dire, je vis en région parisienne, je vis dans un petit appartement, au moins tu
compenses un peu.
Tu compenses et tu mets de la vie. Et ça change tout en fait. Et ça, c'est intéressant. Et c'est d'ailleurs intéressant ce que tu dis parce que, par rapport aux influenceurs, parce que de plus en plus maintenant, les influenceurs quittent Paris aussi. Je le vois beaucoup pour aller vivre. Je pense que ça va être un phénomène après global de la campagne. Il va devenir un peu the place to be. Mais toi, tu disais tout à l'heure par rapport aux bienfaits, qu'est-ce que. Toi, tu connais par rapport aux bienfaits des plantes chez soi. Et première chose, c'est qu'est-ce que toi, tu vois par rapport aux bienfaits, par rapport à ce que tu connais et ce que tu as perçu, toi. Et par rapport à ta communauté, si peut-être des gens aussi te disent qu'eux, ils ressentent aussi au quotidien depuis qu'ils ont des plantes.
Moi, il y a vraiment l'idée de donc, se créer un petit peu un cocon où on peut déconnecter. Parce que c'est pas forcément facile de déconnecter quand on habite en ville. On entend les voisins au-dessus, en dessous, les klaxons, pour le peu qu'on habite sur un boulevard. Il faut créer une illusion de déconnexion. Et ça passe par se sentir bien chez soi, faire une déco qui nous plaît, suivant les moyens qu'on a, bien sûr. Là, on parlait du géant suédois, tous mes meubles viennent de là-bas. Mais je compense un petit peu avec mes touches personnalisées. Donc, il y a vraiment l'idée de se sentir bien chez soi et de s'isoler un peu. Après, il y a des vrais bienfaits en termes d'isolation sonore, par exemple, quand on a un petit accès extérieur, une terrasse, un rebord de fenêtre ou autre. Il y a un livre qui a été écrit il y a 2 ans qui s'appelle... je l'ai sorti tout à l'heure. Qui s'appelle « Un jardin où il fait bon vivre ». Et c'est aux éditions First. C'est pas le mien, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'aime bien en parler. Et en fait, il y a toute une plein d'explications scientifiques sur les bienfaits des plantes, et notamment, par exemple, quand on veut se cacher un vis-à-vis, tu sais, un brise-vue, et ben, on peut mettre des jolis canisses en bambou, mais par contre, quand on met des plantes, ben, on a une barrière sonore, de pollution aussi. Les particules sont filtrées, plus les feuilles sont grandes ou un petit peu texturées, duveteuses, etc., plus elles captent les particules de la pollution en ville. Et ça, je trouve, c'est pourquoi s'en priver, parce qu'en plus, c'est joli. Mmh. C'est même plus joli, selon moi, que des canisses en bambou. Mais voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc, moi, typiquement, sur mon petit balcon, donc j'ai qu'une petite rambarde, c'est vraiment une coursive, quoi, c'est pas grand-chose. Mais tout est végétalisé. Il y a aussi l'illusion visuelle aussi. Je vois que du vert à travers ma fenêtre. Et ça, c'est l'impact sur le cerveau. Il n'est pas tout à fait le même, en fait, quand on voit que du gris ou du béton ou que du vert. Et à l'intérieur de la maison, alors là, moi, je dirais que les effets positifs, ils sont multiples. Il y en a qui sont en lien avec des études scientifiques, par exemple. En 1989, je m'en souviens parce que c'est ma date de naissance, c'est mon année de naissance. Il y a la NASA qui avait fait une étude qui s'appelait Clean Air Study, donc une étude sur la qualité de l'air. Et pour savoir comment renouveler l'air dans les capsules des astronautes. Et ils avaient fait des études sur l'impact des plantes et le fait que ça peut purifier l'air. Et il y a des vrais résultats hein, qui montrent que voilà, les plantes aspirent le CO2 et rejettent de l'oxygène, sauf la nuit, parce qu'elles ne peuvent pas photosynthétiser. Et ils avaient établi toute une liste de plantes qui étaient plus ou moins purifiantes pour nos intérieurs. Il y en a même qui arrivent à absorber les polluants volatiles, tu sais, qu'on a dans nos intérieurs. Il y a beaucoup de microplastiques maintenant, ou de choses comme ça, genre le benzène et tout. Il y a des plantes qui arrivent à l'absorber. Donc ça, alors, il faut que ça soit en grande quantité, mais je pense
une centaine
que ça,
de plantes, ça va, quoi, chez toi.
Bah voilà, pourquoi c'est pareil, pourquoi s'en priver, hein, si on sait que... Et puis moi, je trouve que les plantes, le jardinage intérieur, donc ça prend un petit peu de temps, ça crée un rendez-vous, un hobby à la maison, qui n'a pas besoin d'écran. Et honnêtement, pour se détendre chez soi ou avoir un petit hobby qui ne requiert pas d'écran, ben, c'est des choses qui sont de plus en plus rares. Parce que souvent, quand on rentre, on a envie de se détendre, regarder une petite série ou autre. Mais on peut lire un bouquin aussi, faire un puzzle, faire du tricot. Et on peut aussi jardiner. Et ça, ça ne demande pas d'écran. Et en plus, ça crée un petit peu d'activité physique. Parce que lire un livre, on ne bouge pas de sa chaise. C'est pas grave, c'est très bien aussi, hein, on a besoin. Mais par contre, aller jardiner, aller bassiner toutes les plantes, aller les rempoter, c'est une petite activité physique où on se lève, on fait quelque chose, un peu comme le ménage, par exemple. Et ça, c'est dommage de s'en passer, parce que c'est rare maintenant les activités en intérieur, chez soi, qui ne requièrent pas d'écran et qui nous font lever de notre chaise.
C'est vrai, c'est vrai. C'est joliment dit, je trouve que c'est de beaux bienfaits que tu as cités.
Oui, et ça, c'est un truc qu'on peut transmettre directement aux enfants. Qu'est-ce qu'on fait chez soi? Oui. À part se planter devant la télé. Qu'est-ce qu'on peut faire chez soi? On galère tout le temps à trouver des activités où ils peuvent faire autre chose que les écrans. Et du coup,
des petites boutures. Avec les enfants, tu fais des petites boutures.
Ah ouais, avec ma classe, avec mes élèves, j'ai des plantes assez faciles. Je les responsabilise assez rapidement. Puis alors, franchement, ils adorent. Parce que les petits urbains qui ne mettent pas trop les mains dans la terre. Il y a des études aussi qui montrent que mettre les mains dans la terre, ça entraîne le microbiome et les défenses immunitaires.
D'accord, ça c'est intéressant.
Alors à moins d'être enceinte par exemple, faire attention et tout, mettre des gants ou d'avoir une blessure, mais aller toucher la terre, biner la terre dans le jardin, ça aide aussi les défenses immunitaires des enfants sur le long terme.
C'est vrai, d'ailleurs c'est très intéressant ce que tu dis. Déjà moi je voulais dire par rapport aussi au jardinage intérieur ou extérieur, peu importe, mais c'est aussi des moments, de vrais moments de présence. Ça c'est un peu Isadora comme ton côté cuisine, Isadora quand elle cuisine, quand elle pâtisse, sauf quand on cuisine dans le quotidien, vraiment quand on cuisine notre truc du quotidien, voilà, bref, faut faire à manger tous les jours, on sait, c'est pas le moment le plus...
C'est pas méditatif.
C'est pas méditatif ces moments-là, mais quand on cuisine le week-end, moi j'ai fait des profiteroles au chocolat là ce week-end pour ma maman, je suis vraiment dans mon truc, et Isadora, c'est plus elle qui cuisine, qui pâtisse au quotidien. C'est vraiment ton truc un peu de moment de présence.
Et bien en fait, moi je ne m'étais jamais rendu compte toutes ces années que... Parce que moi je me dis toujours, ouais, moi je mets toujours une série ou un podcast quand je fais à manger. Oui. Au quotidien. C'est-à-dire que c'est là, ce soir, je sais que... Voilà. C'est vrai que moi, la cuisine, très vite, notamment ce soir, tu vois, Alba est au bain, je fais mon petit repas, je mets un podcast parce que c'est la cuisine du quotidien, je m'en fous un peu, quoi.
Ouais.
Alors que le week-end, moi, c'est vraiment le week-end, généralement, je fais pas grand-chose.
je reste beaucoup de temps dans ma cuisine, énormément. Et comme la semaine dernière, j'ai fait du pain tout le week-end. J'ai fait deux pains en un week-end, donc tu mets quasiment 15 heures. Donc ça veut dire 15 heures dans ta cuisine.
Du pain au levain.
Du pain au levain. Mmh. Et du coup, c'est ce temps où j'ai pas de portable parce que je ne peux pas me concentrer. C'est impossible de me concentrer sur une image et en même temps voilà, pétrir la pâte, etc. Et ça me fait le même effet, en effet, avec le jardinage parce que je pourrais, en étant dans mon potager, en soi, mettre mes écouteurs, écouter un podcast. Je pourrais, hein, pourquoi pas. Mais quand j'y suis, je ne sais pas pourquoi, il y a ce côté de...
Tu te crées un rendez-vous, en fait.
C'est ça,
avec toi-même.
Se créer un petit rendez-vous.
T'as besoin de rien de plus.
Le temps passe si vite. Parfois, je me dis, attends, ça fait déjà une demi-heure que je suis dans le jardin en train de planter des, enfin semer des trucs. Je peux pas y croire tellement. Pour moi, je me suis dit au début, je vais m'ennuyer, tu vois, sans écran. Tellement on est habitué à avoir des écrans. Ouais. Tu dis, je vais m'ennuyer sans écran. Non. Et en fait, t'es tellement pas parasité par autre chose que ce moment. Et je trouve ça super intéressant de le rappeler que c'est un vrai moment de détente, de méditation, je trouve, et de se concentrer sur soi, en fait, de penser à soi.
Oui,
tout à fait.
Et c'est vrai que dans cette génération où on a du mal à être ancré dans le présent, on est toujours dans le passé, le futur, de qu'est-ce que je peux faire d'autre, quelle est l'autre tâche à accomplir, quel est l'autre truc, là c'est un vrai moment. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport au microbiote et la terre, c'est quelque chose qui est très réputé aussi. On dit souvent, quand t'as un jardin, aux enfants ou même aux adultes, d'aller marcher pieds nus dans la terre, c'est très important. On appelle ça en anglais le grounding. Il y a eu plein d'études à ce sujet aussi. Le retour à la terre, parce que l'être humain, comme on le dit toujours dans tous les épisodes de podcast, mais c'est la vérité, l'être humain s'est totalement détaché de sa nature, qui était donc la nature à la base. Du coup, on est toujours entouré de béton, entouré de, bref, comme tu disais tout à l'heure, l'urbanisation, et qu'apparemment il y a des études qui ont été faites que le matin ou dans la journée, tu marches pieds nus dans ton jardin, ça a des grands bienfaits. Là je les ai pas parce que j'ai pas les études sous les yeux, mais j'en ai beaucoup entendu parler.
Et ça vaut le coup de creuser, c'est hyper intéressant.
Ouais, et moi la dernière fois j'avais dit à ma belle-fille, la fille de Samuel, un matin j'étais pieds nus dans le jardin et elle sort de la véranda avec ses petites chaussures. Elle commence à dire, attends Marisa, je vais te rejoindre, je vais mettre mes chaussures. Je fais non, ne mets pas de chaussures, viens avec moi. C'est bizarre de marcher pieds nus, parce que même eux à cet âge-là, 7 ans, ils sont déjà totalement déconnectés, tu vois, on les a déjà donc c'est intéressant.
Il y a un intermédiaire entre eux
c'est
et
ça. C'est un truc, moi, que j'ai toujours évité. Ma fille a toujours marché pieds nus tout le temps. C'est plus mon conjoint, lui, qui a du mal en me disant mais des chaussures. Non, on n'a pas besoin de chaussures. C'est génial de marcher pieds nus. En plus, nous, dans notre famille, que ce soit Mathieu ou moi, là, c'est Isadora qui parle, c'est hyper rare, nous, d'avoir des chaussons, des chaussures chez nous. On est toujours pieds nus. Alors,
moi, c'est l'inverse, parce que moi, je suis toujours, je ne sais pas marcher pieds nus. J'ai un gros problème avec le sol, le contact de mes pieds sur le sol.
Moi, j'adore.
C'est quelque chose qui me prend du. Il faut que je me le mette dans ma tête. Marisa, pas de chaussons.
Pour moi, c'est limite hyper difficile pour moi de me dire chez moi d'avoir des chaussures ou même les grosses chaussettes là qu'on a l'hiver, par exemple. Nous, on est toujours pieds nus, été, automne, hiver. Et le fait de mettre, par exemple, la terre dans la bouche ou jouer, etc. Oui. Ça aussi, on a laissé notre fille le faire dès le départ. En fait, moi, je savais même pas qu'il y avait c'est les gens sur les réseaux sociaux. Quand je montrais Alba, qui était dans le carré potager avec par exemple de la terre un peu autour de la bouche, on me disait attention, c'est dangereux. Et moi, je me disais, mais quel peut être le danger de la nature, enfin de la terre comme ça, dans la bouche d'un enfant? Et au contraire, je m'étais renseignée. Et en effet, c'était hyper bon pour développer leur microbiote et d'avoir un microbiote un peu plus fort aussi.
Oui, d'ailleurs, il y a un super épisode de podcast de la matrescence à ce sujet, non? Laisser nos enfants
dans la nature,
toucher, je sais plus. Ah, on vous mettra en description, je m'en souviens plus là comment il s'appelle, mais l'importance pour les enfants de les laisser pieds nus toucher la terre, c'est hyper important pour le développement de leur microbiote intestinal, et pas que intestinal d'ailleurs. Le microbiote en général, et aussi il paraît, mais ça j'ai pas non plus d'études à ce sujet, mais je l'ai lu aussi quelque part, que le fait de marcher pieds nus avec les enfants, tout ça, de les laisser en contact avec le sol, ça développe leur confiance en eux, tout ce qui est estime de soi, confiance en eux, parce qu'ils ont plus de rapport avec leur propre corps. Ils maîtrisent leur corps, en fait, et donc ils ont conscience de leur corps. C'est très intéressant. Et
je le note, comme ça on essaie de mettre des petites études en note de l'épisode pour pas qu'on dise que des bêtises. Mais justement, toi tu as une centaine de plantes, tu passes donc du temps quand même à t'en occuper. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta routine, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, je sais pas comment on se Déjà, moi, j'en ai que deux chez moi et ça me paraît déjà insurmontable parce que je les oublie toujours, les pauvres. Heureusement, moi, j'ai un pothos, donc dès que je vois qu'il commence à tirer un petit peu la tête, oui, hop, je lui en mets parce que je trouve que c'est un super radar, le pothos. Mais quand j'en ai 100, j'aurais peut-être pas les yeux sur est-ce que ce pothos-là me demande à boire. C'est quoi ta routine ?
Alors, c'est vrai que d'avoir des plantes qui vous disent quand les arroser, ça aide beaucoup. Bah, quand on est un peu tété en l'air, qu'on n'a pas trop le temps, ou que voilà, ça c'est vraiment pas mal. Bah, d'ailleurs, j'en ai plusieurs dans le livre parce que je voulais vraiment faire un livre pour débutants, pour que ça soit assez ludique en fait. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, j'espère toujours que ça soit ludique. Mais grosso modo, moi, ma routine, alors je prends toujours un temps le week-end. Alors maintenant que j'ai mon fils, bah, soit pendant la sieste, soit le soir quand il est couché. Même si maintenant qu'il grandit, j'essaie de l'intégrer de plus en plus dans l'entretien des plantes. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où il était entre deux et s'il me voyait toucher, il voulait arracher ou des choses comme ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et je vais me prendre un temps pendant le week-end pour moi, une petite heure par exemple. Alors bien sûr, ça dépend de la saison. En hiver, il y a moins de choses à faire. Les mottes de terre sèchent moins vite, du coup on n'a pas le souci de toujours vérifier si on a une qui n'est pas en train de mourir de soif, alors qu'en été, deux fois par semaine, je vais être obligée pour la plupart de les arroser ou d'apporter une petite touche d'eau. Souvent j'ai une petite soucoupe ou un petit cache-pot où je peux arroser directement dans le pot, mais au moins une fois par semaine en été, j'essaie d'aller les doucher, c'est-à-dire vraiment, faut penser truie pluie tropicale, tu vois, comme sous les tropiques. Le terreau est détrempé. Je me les mets dans la douche pour que ça draine, pour pas qu'il y ait d'eau stagnante sous la soucoupe, sinon ça peut faire pourrir les racines. Et ça, c'est vraiment globalement ce qui se passe. Après, au printemps, il y a plus de choses, type du rempotage, du bouturage, etc. C'est hyper intéressant, ça aussi, avec les enfants. Là, tu parlais de la confiance en soi, Marisa, mais c'est vrai que voir une plante grandir, se bouturer, se multiplier, alors qu'on a un enfant et qu'on n'y connaît pas grand-chose, mais on arrive quand même à le faire, c'est hyper gratifiant, quoi. Moi, chez mes élèves, il y a un vrai truc en lien avec la confiance en soi, grâce à ça. Mais voilà, ma routine maintenant que j'ai mon fils, elle a un peu changé. C'est vrai qu'il y a eu un moment donné, la première année de sa vie, où vraiment les plantes étaient à un moment donné devenues un peu une corvée, parce que comme j'en avais beaucoup, mais ça c'est le cas dans toutes les collections, quand on a une collection, au début on est très très heureux, on a envie d'accumuler, on a envie après, et après on se ressente plus sur des choses qui sont à notre portée, c'est-à-dire voilà, des plantes qui peuvent supporter que je les oublie un petit peu, des plantes, alors moi je dépense pas énormément d'argent dans mes plantes, mais comme tous les collectionneurs, il y a des plantes qui coûtent très très cher, il y en a qui en achètent, c'est vraiment une passion. Voilà, après chacun vraiment fait comme il veut, mais du coup je suis un peu moins stressée par elle. Je voulais pas que ça me mette un stress, cet entretien, sachant qu'en plus à chaque fois que jardine je filme pour les réseaux, donc ça me crée une autre chose supplémentaire, tu vois. Il fallait que je pense aussi à la caméra, tout ça. De plus en plus maintenant je jardine un peu pour moi-même et puis je filme peut-être un peu moins, mais c'est pas grave, je montre après, je montre l'évolution ou j'explique à mes abonnés, bon bah ça j'ai pas filmé, je voulais le faire pour moi, mais voilà, je vous montre maintenant comment c'est. Ouais, il y a eu un moment donné au tout début de la vie de mon fils, ouais, c'était un peu devenu oh là là, je les oublie tout ça. Et maintenant, c'est par passade un peu, je me suis remise dedans à me créer un petit rendez-vous le week-end, à ne faire que ça, à le voir vraiment comme au tout début, un moment pour moi, ça me fait plaisir. Parce que quand on commence, on a envie, on regarde les plantes, alors qu'est-ce qui se passe ? Laquelle je dois arroser ? Laquelle je dois rempoter ? On a envie qu'il se passe un truc. Et puis en fait, quand on commence à en avoir beaucoup, on est plutôt là, oh là 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 là, la montagne de travail. Mais en fait, voilà, je voulais que ça redevienne un plaisir plutôt qu'une to-do list. Créer une to... pas to-do, mais to-want. To-want to-do, je ne sais pas comment dire. Un truc que j'ai envie de faire et pas un truc que je dois faire. Donc ça, j'ai dû avoir une petite transition avec Louis, parce que...
Je suis d'accord, j'ai vécu la même chose, parce que moi, j'ai pas autant de plantes que toi, mais j'avais quand même pas mal de plantes à une période. J'ai ma aînée, et j'en ai tué énormément. La vérité, parce que beaucoup m'ont dit sur les réseaux, « Oui, Marisa, tu fais plus de vidéos plantes. » Parce que la vérité, c'est que depuis que j'ai ma aînée, j'en ai tué pas mal. Aujourd'hui, il me reste mon Monstera, parce que mon Monstera, c'est ma première plante que je me suis vraiment achetée, où je me suis dit, Marisa, cette plante-là, tu vas en prendre soin, c'est ton baby plante, c'est pas les autres plantes de Ikea que j'avais achetées quand j'étais plus jeune. Là, c'est vraiment ma première plante de...
je me suis dit, ouais, là, je vais m'en occuper. Elle a hyper bien grossi et tout. Et je me suis dit, ça, je refuse que cette plante, elle meure. Ça, c'est vraiment ma plante que je ne veux pas que celle-ci meure un jour. C'est ma plante de la vie.
C'est beaucoup d'entre nous qui avons abandonné pendant un temps une passion ou... Parce que, tout simplement, on a un être humain à qui il faut donner tout notre temps. En plus, toi, t'as allaité aussi comme nous. Donc, c'est beaucoup d'énergie, de temps de présence.
En fait, on s'oublie, mais du coup, on oublie aussi ses passions.
Bien sûr, c'est normal. Pour moi, c'était le temps d'eux. Comme à ces périodes, moi, j'avais arrêté de faire de la pâtisserie. J'avais arrêté de faire à manger comme je faisais tout le temps. Et tu vois, ma fille, elle va avoir 3 ans. Et j'ai repris il y a quelques mois, mais de façon... on ne m'arrête plus. Parce que je peux partager aussi maintenant... ça aussi avec elle.
Donc, et t'es moins fatiguée, t'as moins cette charge. Enfin, c'est vrai que tout est que question de temps dans la vie. Il n'y a que ça, il n'y a que des moments où t'as du temps,
la passion,
le feu intérieur.
C'est que des étapes de vie de toute manière. Donc du coup, toi, chaque semaine, Que le week-end. Une fois par semaine.
Oui, le week-end et puis au printemps, à l'été, un petit check une fois par semaine en plus durant la semaine, celles qui ont le plus besoin rapidement. Mais c'est pas toutes d'un coup. Parce que ensuite, ce qui est bien avec les plantes, c'est qu'on a besoin d'observer celles qui ont soif ou pas. Il n'y a pas de règle générale. Il y en a qui sont proches des fenêtres et qui ont besoin d'être arrosées plus souvent parce que la motte sèche plus souvent. Il y en a qui ont des besoins plus grands que d'autres. Et donc, je prends toujours le temps, au moins une fois par semaine, en dehors du week-end, d'observer, de faire un petit tour, de regarder. Et puis, suivant les espèces, il y en a, le terreau est sec, mais je sais qu'elle peut m'attendre. C'est aussi l'expérience. Et puis d'autres, je vais faire un petit tour dans l'évier de la cuisine. Et puis, je vais pallier à ça. Et puis, peut-être que le week-end, je n'aurai pas besoin de la réarroser. Je vais faire, 2 tours dans la semaine, dont un qui est un peu plus fourni. Par exemple, si on a une qui a besoin d'être empotée, ça sera pendant ce moment, pendant le week-end, là.
Ok. Et tu vois, on ne va pas rentrer dans les détails de vraiment comment exactement prendre soin de ces plantes, parce que tu as sorti quand même un livre qui s'appelle « Végétaliser votre intérieur » avec la maison d'édition Rustica, donc ce serait quand même dommage de donner tout ce qu'il y a dedans, un travail quand même que j'imagine acharné. Et d'ailleurs, sur la couverture, c'est quand même écrit « Ne tuez plus vos plantes !»
Ouais.
Ouais. En plus, c'est un très beau livre, les photos sont absolument magnifiques, et c'est vrai, je vais pas te mentir, tu nous as gentiment envoyé ton livre, et merci beaucoup, parce que je trouve... trop beau. Et quand j'ai vu, ne serait-ce que la couverture du livre, je suis là, goal.
Elle a tout de suite voulu qu'on aille acheter des plantes. Je lui ai dit déjà, on se calme.
Mais je suis pas allée. parce que je me suis dit Marisa. Mais c'est vrai que le côté maximaliste que tu as, dont tu parles souvent dans tes vlogs. Parce que moi j'adore tes vlogs, dont tu parles souvent. C'est quelque chose que nous on se reconnaît beaucoup plus. Enfin, comment dire, nous on dit souvent aux gens qu'on est minimaliste. Alors oui, dans le sens qu'on possède peu de choses. C'est vrai qu'on n'a pas 10 paires de lunettes de soleil, j'ai pas... En revanche, moi, en termes de décoration, on a toujours eu ce truc un peu de... on n'est ni minimaliste ni minimaliste. Non, ouais. C'est ce côté où... Je n'aime pas une maison minimaliste, par exemple. Les maisons minimalistes tendance, pour moi, là où il y a... pour moi, c'est froid. Et nous, c'est vrai qu'on est des filles du soleil. Hein. On est des Africaines. On a vécu beaucoup d'années en Afrique et tout. Et c'est vrai que les maisons sont plutôt chaleureuses. Et nous, on a notre grande sœur qui a vraiment une maison plutôt comme la tienne, très maximaliste. Beaucoup de petits objets qu'elle a trouvés à droite, à gauche, dans tous les pays qu'elle a fait, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai ce truc-là de... Je suis plus quelqu'un qui trouve visuellement plus jolie les maisons maximalistes. Parce que moi, j'avais jamais entendu cette notion. C'est toi qui l'avais parlé de ça dans une vidéo YouTube. Et je suis allée voir qu'est-ce que c'est que le maximalisme. Et en effet, c'est une tendance que je ne connaissais pas du tout et qu'on voit sur Pinterest, etc. Et que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup plus dans le côté chaleureux, mais pas le côté j'ai acheté des objets chez Ikea, tu vois. C'est plus le côté j'ai des objets qui racontent une histoire, qui ont une vie, qui ont un truc. Toi, à quel moment tu t'es dit que t'étais maximaliste ?
En fait, j'ai découvert une nana aux États-Unis qui s'appelle Justina Blackney, qui est c'est une vraie entreprise maintenant. Au départ, c'était un blog qui s'appelait The Jungalow. C'est la contraction de jungle et de bungalow. Elle avait acheté, alors ce qu'elle appelle un bungalow aux États-Unis, un bungalow, c'est pas si petit que ça, hein. C'est juste que comme là-bas, tout est grand. Et elle l'avait vraiment décoré à beaucoup de couleurs, beaucoup de... Alors elle est d'origine, je ne me souviens plus, mais une famille composite avec plein de d'influence de différents pays. Et elle, voilà, elle a commencé il y a quelques années vraiment à contre-courant du mouvement minimaliste, mais elle s'y retrouvait pas. Et du coup, sur son blog, elle commençait à partager un peu ses inspirations, déco, etc. Depuis, elle a sorti 3 livres, elle a des lignes de linge de maison.
J'avais vu, hein, je suis partie regarder, j'ai trouvé ça trop joli. Moi, j'ai parti voir, après, t'en avais parlé sur YouTube de John Gallo, je suis partie voir son kitchen tour. Mm-hmm. J'étais, mais waouh! Ah, moi, c'est tout à fait, je me suis dit, c'est la vibe, j'adore, moi, c'est vraiment. D'un coup, je me suis dit, non, le côté minimalisme, je me ressens pas du tout, ça me parle pas du tout. Mais alors là, je suis partie voir sa vidéo et j'ai fait, non, mais c'est. Oh Gaul, j'adore, magnifique. Ouais.
Bah, je découvre moi, donc.
Bah oui, bah tu t'iras voir, Isadora, tu verras. C'est bon, voilà, c'est différent. Et à l'époque, il y avait rien d'autre. Oui. Vraiment, tout était très scandinave, tout ça. Et moi, j'avais une décoration un petit peu scandinave, ce qu'on trouvait voilà dans les chaînes d'ameublement. Et puis, ça me convenait pas trop en fait. Et puis, ça vaut dans la vie en général. Hein. Il y a ce qu'on aimerait et ce qui nous convient vraiment à nous. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver qui est pas facile. Ça vaut pour la déco, ça vaut pour nos habitudes alimentaires, nos habitudes de vie, nos hobbies, etc. Les gens avec lesquels on s'entoure. Ça vaut pour tout. Moi, je pense. Mais du coup, dans la déco, c'est un peu pareil. Et puis, je m'étais rendu compte que, voilà, moi, régulièrement, je fais du tri. Par exemple, j'ai pas 100 000 vêtements, j'ai pas 100 000, comme on dit. Mais dans ma déco, c'est vrai que j'aime bien avoir mes souvenirs de voyage, mais j'ai un peu besoin. Alors, est-ce que si je déménageais, j'emporterais tout? Je sais pas. Mais en tout cas, là, à cet instant T, ça fait partie de l'identité de mon chez-moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu un petit peu ce courant qui était un peu du coup à contre-courant à l'époque. Et souvent, je dis sur ma chaîne, c'est vrai que j'en parle souvent parce que régulièrement, des fois, j'essaie de trier, d'enlever des choses. Il y a une vraie volonté hein, de ma part de réduire, notamment pour mon fils, pour lui faire de la place, pour qu'il ne soit pas envahi de choses, de jouets, etc. Mais il y a toujours une petite partie de moi voilà, qui aime accumuler certaines choses. Et par exemple, voilà, les plantes, ça en fait partie. Ça a remplacé pas mal de déco, malgré tout, finalement. Du coup, je compense avec des jolis pots, des jolies caisses-pots pour les côtés un petit peu déco. Mais... ouais, voilà un petit peu cette tendance que moi ça fait du bien, ouais, ça a déculpabilisé un peu.
Oui. Oui, non mais complètement, c'est vrai que quand j'avais rencontré ta chaîne, je me suis dit waouh, ça va oui, en effet à contre-courant du mouvement home tour qui cartonne sur les réseaux sociaux depuis des années maintenant, les youtubeuses et les youtubeurs ont tendance à montrer leurs intérieurs et à chaque fois que je regarde les intérieurs de ces youtubeurs là, je me dis toujours, je ne m'y reconnaîtrai jamais, tu vois. Après, chacun fait comme il veut, hein, chacun aime sa truc. Mais comme ils ont tous sensiblement les mêmes intérieurs, à chaque fois, je me dis, mais j'arrive pas à trouver la particularité. Tu sais, ils achètent beaucoup, je vois, dans ceux qui sont mainstream, on va dire. Je vois beaucoup, tu vois, les trucs Ikea, Zara, le truc. Mmh. Et je vais me dire... Et quand je t'ai découverte, j'ai vu ton intérieur. Et toi, t'es quand même, je trouve, moi, un peu la queen des petites... trouvailles, de petits créateurs, de petits objets dont tu penserais jamais que cela même existe. Je t'assure, Marion, qu'à chaque fois que je vois une vidéo de toi, tu nous montres un petit objet trop cute, trop mignon. Je vais directement voir sur Instagram la nana, je suis là. Allez, je mets dans mes enregistrements un jour peut-être. Mais t'as quand même ce truc de trouver des petits créateurs tout mignons, tout cute. Et encore plus depuis que t'es maman, je trouve que alors là, moi, à chaque fois, je pourrais acheter pour Gemma absolument tout ce que tu proposes, tout ce que tu montres.
Ah bah oui, mais tes cibles, en plus, on a des enfants qui ont le même âge. C'est vrai que c'est pas juste. C'est, oui. Du coup, je te... Ouais, mais oui, vrai que... Ouais, pour moi, il n'y a pas tout petit plaisir. Alors, je pense que ça dépend aussi de son mode de vie, de sa façon de vivre, etc. Moi, je suis enseignante, donc je n'ai pas des moyens de fifou. Mais il y a des petites choses pour lesquelles je... Tu vois, comme je disais, mes vêtements, c'est pareil. Hein, ou mes meubles, ils ne valent pas des milliers de cents. Ce n'est pas des trucs parce que ce n'est pas là où je vais dépenser mes sous. Mais je compense par d'autres petites choses qui font que quand on vient chez moi, c'est chez moi. Pourtant, le canapé que j'ai, tu le vois dans tous les intérieurs. Mais ce n'est pas grave, en fait. Alors, j'aimerais bien m'acheter des pièces de créateur, quoique les choses pour moi sont importantes. Mais par contre, elles n'ont pas une valeur de fifou. Si je casse un truc, ce n'est pas grave. Je ne suis pas extrêmement précautionneuse, par exemple. Je suis toute en ambiguïté, hein, je suis désolée.
Comme nous tous.
Du coup, c'est des petits trucs comme ça. Ouais, il n'y a pas de tout petit plaisir. Et puis, alors, en plus, je pense que ça vient aussi de ma formation. Ah oui, j'ai pas dit, j'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art avant de faire un master d'éducation et de métier de la culture. la formation et de la culture et avant de passer le concours. Je pense que c'est lié aussi à ça. J'aime bien ce qui est beau. Alors après, le beau, c'est tout relatif, hein, on est d'accord. Mais ouais, des trucs qui font... Ouais. C'est un peu lié à l'art, je pense.
Oui,
des
je pense.
Comme ça qui font plaisir.
Moi, je trouve que c'est... Oui, mais en tout cas, personnellement, moi, pour moi, c'est très beau. Ce que ton intérieur, je le trouve hyper, hyper sympa. Et si on revient sur les plantes, c'est quoi, toi... Parce que, est-ce que tu vois, il y a une question que tu voudrais poser ?
Bah, moi, j'en ai deux.
Ah, bah, bon, alors, vas-y, commence. Parce que moi, c'est déjà pour les plantes. Moi, j'aurais une question. La première, ce serait... Quel serait le top 3 des plantes qu'on peut avoir chez soi quand on est nul ? Quand on est nul, mais vraiment quand on pense qu'on est des tueurs, parce que c'est ce qu'on dit très souvent, on est des tueurs de plantes. Et là, il y a des personnes qui vont nous écouter et qui vont se dire, ok, Marion, elle m'a motivée, elle me donne envie d'acheter des plantes, je sais pas par quoi commencer. C'est quoi le top 3 ? Je commence par quoi ? En troisième position.
Alors, il y a une plante dont je parle très souvent, j'ai plein de vidéos dessus, c'est les pothos. Donc, c'est des plantes qui sont voilà, hyper simples, qui vous disent quand les arroser, si vous êtes un peu tête en l'air ou que vous ne savez pas. C'est des plantes qui vont autant survivre d'un manque d'eau ou d'un trop d'eau. C'est des plantes qui résistent bien aux nuisibles, parce que voilà, on peut avoir comme ça de temps en temps de nuisibles. Et quand on débute, franchement, ce n'est pas facile ni de les reconnaître, ni de les identifier, ni de les traiter. Donc, ça, au moins, vous êtes tranquille. C'est des plantes qui se trouvent facilement, là aussi, quand on débute. Une plante qui est bon marché, qu'on trouve facilement, c'est plus déculpabilisant si on la tue ou autre qu'une plante hyper compliquée, hyper chère qu'on a galéré à trouver. Et honnêtement, avec les pothos, j'ai convaincu plein de gens de s'attaquer aux plantes. En plus, c'est des plantes qui, dans la nature, sont tutorées et grimpent, mais en fait, nous, on peut très bien les faire cascader dans nos intérieurs. Donc, on manque de place, on peut les suspendre et créer une petite décoration. Voilà, à la place de mettre un cadre, on suspend un petit macramé. Ça résout aussi les problèmes de place. Donc ça, j'en parle beaucoup dans le livre parce que forcément, c'est ma plante de prédilection. En plus, il existe plein de cultivars en ce qui concerne les pothos, donc plein de différentes variétés, de couleurs, de textures, de marbrures. Donc là, vraiment, on peut se faire plaisir, quoi. Alors, pour le coup, pothos, on parlait de plantes désuètes de grand-mère. Alors, comme on en disait, hein, ça, c'est vraiment un truc... Et c'est rigolo parce que quand j'ai commencé un peu les plantes en France, on parlait pas tellement du pothos. Jamais, je crois qu'on parlait plutôt de la Monstera qui était la star des plantes addictes. Et je dirais que c'est ma numéro 2. Une Monstera, pareil, hyper facile à trouver, hyper graphique, ça grandit rapidement. D'ailleurs, si on a peu d'espace, je ne la recommande pas, mais si on a un petit espace à combler, on peut y aller. C'est une plante, alors ça, je n'ai pas dit, mais comme le pothos qui va s'adapter si on n'a pas énormément de lumière, alors elle va peut-être grandir moins vite, mais c'est vrai qu'en ville, parfois, on n'a pas énormément de lumière, suivant comment on est exposé, si on a une façade en face ou autre. Et puis, j'irais aussi les philodendrons, voilà, en troisième. Donc là aussi, il y a plein de types de philodendrons. Il y en a des très simples qu'on trouve partout. C'est une famille, par contre, qui est hyper grande. Donc quand on commence à bien s'y connaître, se spécialiser, après, on trouve plein d'autres types de philodendrons, certains qui vont d'ailleurs dans des prix délirants, pour des raisons de loi du marché. Hein, Mais du coup, ça, je pense que ça peut être un bon top 3. Après, si on a des oublis d'arrosage, si on ne pense jamais à ces plantes, il faut peut-être se tourner vers des plantes qui gardent l'eau en réserve. Par exemple, tu parlais de ta Sansevieria, donc la langue de belle-mère, qui est une plante qu'on peut oublier facilement et qui, c'est rigolo parce qu'on en trouve beaucoup dans les pays asiatiques où il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil. Et pour autant, si on la met dans un coin avec peu de lumière, elle ne va pas non plus dépérir. Donc, c'est une plante qui s'adapte facilement.
Ouais. Et en plus, ça me rappellera toujours. Pour moi, c'est la plante de la nature. C'est la plante parce que nous au Sénégal, c'est vrai que c'est une plante qui pousse partout.
Ouais.
C'est vraiment. Tu arrives au Sénégal, tu vois partout des Sansevieria. Eux, ils n'appellent pas. Ils n'ont pas de nom. On s'en fiche. C'est comme l'aloe vera. L'aloe vera, tu la vois.
En plus.
C'est hyper graphique. C'est trop joli. Ouais. Et c'est vrai que l'aloe vera aussi, c'est une plante que l'on trouve absolument partout au Sénégal, en Martinique aussi. Pour eux, c'est pas de la mauvaise herbe. Ça pousse. Ils l'utilisent beaucoup. En Martinique, je sais qu'ils l'utilisent beaucoup pour la couper et justement profiter des bienfaits de l'aloe vera à l'intérieur. Mais c'est pas quelque chose qui est. C'est pour ça que c'est drôle parfois de se rendre compte en termes de culture comment on n'a pas ces plantes-là qui poussent chez nous, mais on a besoin de les avoir dans notre intérieur pour donner une impression d'être dans un pays exotique, tu sais. C'est très intéressant. Et moi, je voulais savoir aussi. Je veux commencer à acheter une plante. J'ai acheté ma première plante. Il va falloir qu'un jour je la rempote. Mais bon, là, vous irez voir tous dans le côté, le livre de Marion, tout ça. Mais s'il y avait aussi, on aime bien les triptyques, s'il y a trois choses, trois matériels, ça se dit ça ? Trois outils qu'il faudrait avoir chez soi quand on veut commencer à bouturer, à rempoter, etc. Un jardinage, tout simplement.
Ouais. Alors j'avais fait, c'est rigolo parce qu'on m'avait beaucoup posé la question au tout début de ma chaîne. J'avais fait une vidéo sur mes indispensables, et puis après j'avais fait une autre vidéo sur plutôt si on veut les chouchouter ces petites plantes. Mais au niveau des indispensables en appartement, moi j'ai acheté rapidement un bac de rempotage, qui est un bac en fait. Je crois je l'ai trouvé sur internet, un bac de vidange en fait, un truc en plastique, mais vraiment pour parce que quand on fait des gros rempotages, on est obligé de faire du ménage, mais quand c'est des petits rempotages, on utilise le bac et c'est terminé, parce que ça prend quand même de la place, à moins qu'on ait une terrasse et on peut faire ses rempotages dessus. Donc moi, je dirais que ça, c'est mon numéro 1. Je le sors tout le temps dès que j'ai des choses à faire. Un bon arrosoir, simplement, parce que faire les allers-retours, quand c'est, bah, comme je disais, une fois par semaine, forcément pour doucher sa plante, mais juste pour aller faire une petite inspection et arroser celle qui vraiment commence vraiment à avoir soif, bah, ça évite d'aller venir avec son verre d'eau, etc. Et si je devais donner un troisième, alors là j'hésite.
Tu fais pas avec des gants toi? Tu fais ça à main nue toi quand tu rempotes?
Je mets des gants. Bah, la seule fois que j'ai mis des gants, c'était quand j'étais enceinte d'ailleurs. Mes
D'accord.
amis ont rapidement deviné. Mais sinon, ouais, j'ai tendance à pas mettre de gants. Alors c'est pas forcément bien pour vos bijoux. Vaut mieux les enlever. Mais ouais, j'ai besoin de la terre. J'ai besoin de sentir la terre. Voilà. Après, on se lave bien les mains. Il y a pas de souci. Pour les enfants, c'est pareil. Simplement. Voilà, on les fait bien se laver les mains. Il y a des plantes qui sont toxiques, il faut faire attention, qui peuvent irriter la peau. À ce moment-là, pareil, voilà, on fait attention ou on se lave les mains s'il y a de la sève, etc. Mais globalement, moi, j'ai jamais de soucis. Pourtant, j'ai pas mal d'allergies à pas mal de trucs. Mais si je devais avoir un autre accessoire, je dirais que c'est un bon sécateur ou un bon coupe-fil pour faire des petites boutures, pour pouvoir trancher une tige sans l'écraser, parce que quand vous voulez faire des boutures, si vous écrasez en fait la tige où il y a le matériel génétique, ça peut poser souci pour qu'elle prenne racine, par exemple en eau. Donc voilà.
J'aurais D'accord. dit pareil, j'aurais dit sécateur D'accord. aussi en troisième.
Et moi, pour la petite astuce de... Pour toi, tu as un bac que tu as acheté. Mm-hmm. D'ailleurs, tu l'as acheté où, le bac que tu m'as donné, là, le grand bac
pour l'enfant
Oui. Non, c'est un bac transparent que tu m'as donné pour...
Optoise.
C'était un bac que t'as... Pas le truc noir.
Ah non, pas le truc noir, le truc de Top Toys.
Tu m'as donné un truc transparent dans lequel j'ai fait du rempotage, là.
Sur les ventes privées enfants.
Ah, d'accord, ok.
Oui, ça s'appelle, tu sais, les ventes privées green, la private green, je crois.
Private green, d'accord. Et, ben non, parce que moi, ma mère, la dernière fois, j'habitais en appartement, les trois dernières années, là, avant d'habiter en maison, j'habitais en appartement, et ma mère m'avait dit, je lui ai dit, mais comment je fais pour rempoter? Elle m'avait dit, et j'avais fait ça, je l'avais montré d'ailleurs en vidéo YouTube à l'époque, c'est juste, j'avais pris deux sacs plastiques, enfin deux sacs poubelles, que j'avais complètement ouverts pour mettre par terre, et j'avais tout fait dessus, et en fait, une fois que j'ai fini, j'ai juste eu à refermer le sac poubelle, et c'était fini, et ça, j'avais trouvé que c'était une super astuce, merci maman, qui est toujours...
Alors le seul avantage du bac, c'est que s'il te reste du terreau, tu peux du coup le garder pour la fois d'après.
C'est vrai.
Alors ça peut sécher si tu attends 3 semaines, mais toi, si t'as pas tout fini, tu peux...
C'est vrai, non, c'est intéressant, c'est sympa. Tiens, toi, t'avais une deuxième question, parce qu'il y a une question auquel on n'a pas répondu tout à l'heure, c'était... Toi, t'as quand même une communauté maintenant de plantes addictes, t'as des gens qui ont commencé grâce à toi? Est-ce qu'il y a des gens qui te disent qu'ils n'avaient pas de plantes avant?
Ouais.
Et qu'est-ce que c'est quoi leur bienfait? Est-ce que toi ils te disent merci grâce à toi qu'est-ce qui a été développé chez eux depuis?
Eh ben ouais, j'en ai pas mal et franchement je pense que c'est ce qui m'a, par exemple un truc tout bête, mais donc quand j'ai accouché de Louis, j'ai eu du mal à me remettre à faire des vidéos et c'est le genre de messages qui m'ont motivée, tu vois, parce que je me suis dit non, faut que je continue, j'ai une communauté trop chou quoi. Donc il y a des débutants qui arrivent, comme ma chaîne est assez ouverte et assez ludique, je suis pas spécialisée dans un seul type de plante par exemple ou autre, ce qui est de plus en plus le cas, il y a de plus en plus de chaînes YouTube, donc je pense que ça attire un petit peu même les débutants, donc qui continuent d'arriver et qui continuent de me dire j'ai regardé une vidéo. S'il y en a une que je recommande pour les débutants, c'est ma vidéo qui est vieille maintenant. Je l'ai rapidement faite, ça s'appelle « Comment arroser ses plantes ?»« Quand et comment arroser ses plantes ?» Je dis toujours, si vous n'avez qu'une seule vidéo à regarder sur ma chaîne et que vous ne voulez plus jamais revenir, juste regardez celle-là. Vraiment, ça va vous changer votre rapport aux plantes et vous allez simplement arrêter de les tuer, vraiment, pour le coup. C'est quelque chose qui est... C'est des messages, c'est parmi les messages les plus, qui me font le plus plaisir et qui sont les plus motivants. J'en ai pas mal comme ça. J'en ai aussi qui m'ont dit qu'ils avaient eu des plantes à un moment donné et puis qu'ils avaient arrêté. Puis finalement, du coup, ils s'y sont remis. Donc, c'est vraiment souvent en lien avec l'entretien des plantes. Et puis, il y a une partie aussi entretien déco. C'est-à-dire, je suis tombée sur ta vidéo, j'ai beaucoup aimé ton intérieur, j'ai beaucoup aimé tes photos et j'ai eu envie de me créer un petit cocon aussi. Du coup, j'ai eu envie de multiplier mes plantes parce que c'est une façon d'avoir plus de plantes à bas coût ou de les échanger avec des amis. Du coup, c'est les messages qui reviennent pas mal.
Et aujourd'hui, c'est quoi la grande question, c'est quoi ton why? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quoi le message que... Est-ce que... Ou t'as le droit de pas avoir de message à faire passer, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que t'as un pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu... Est-ce que t'as un message que t'as envie de faire passer en faisant des vidéos sur les plantes? Parce que tu sais, quand on est... Les gens se rendent peut-être pas compte, mais quand on est créateur de contenu, on est toujours en réflexion permanente sur le... Au bout d'un moment, enfin, je sais pas, nous, c'est vrai qu'on l'a beaucoup... Bah, quelle est l'utilité de poster cette vidéo aujourd'hui sur cette chaîne? Enfin, tu vois, parfois tu te dis, est-ce que même quelqu'un, ça intéresse qui aujourd'hui de poster encore une vidéo sur une recette ou un truc ou nanana? Et c'est vrai que parfois, quand on revient à chaque fois à notre pourquoi, notre why, le pourquoi on fait ça, quel est le message qu'on veut faire passer, on se dit, non mais si, il y a une raison d'être de cette chaîne. Est-ce que toi, tu te poses ce genre de questions? Est-ce que toi, tu as un message, un pourquoi?
Alors moi, je pense que c'est en lien direct avec mon métier. C'est-à-dire que j'enseigne aux enfants dans la vie et là, j'enseigne aux adultes. Sur internet et ça c'est vraiment je pense que c'est la seule, enfin je pense que c'est ce qui m'a fait tenir pendant, bah, comme je disais au début, on était trois sur la chaîne à me suivre, mais j'avais envie de transmettre, voilà, je sais un savoir. Alors c'est un peu autodidacte pour le coup, j'ai beaucoup lu sur le sujet, d'ailleurs je fais souvent une sélection livre pour les gens que ça intéresse, qui n'ont pas envie du format vidéo mais plutôt du format papier. Donc ouais, je pense que c'est en lien direct, transmettre ça. Et d'ailleurs au tout début je faisais des vidéos juste pour mes copines, hein, parce qu'à force de leur faire des allers-retours chez moi, j'avais plus trop de temps, maintenant j'envoyais la vidéo. Alors t'as ce problème là, tiens tu regardes cette vidéo.
C'était c'est intéressant. Plus simple. C'est à dire que tu te puises aussi sur ton entourage pour faire du contenu aussi, c'est intéressant.
Ah ouais, au début c'était vraiment les questions des copines, des collègues. Combien de fois on a fait des soirées à la maison où j'expliquais telle plante pour tel endroit machin. Bon, ça devenait compliqué et du coup au moins il y avait une référence en vidéo. Moi je pense que c'est en lien vraiment avec la transmission et juste voilà. Et puis bah c'est une passion donc on partage. Il y a vraiment un lien avec le jardinage. Je trouve que c'est vecteur de sociabilisation. Par exemple, tu croises ta voisine du dessus, elle a des plantes magnifiques sur son balcon et tu lui demandes mais vous avez planté quoi parce que moi tout ce que je mets ça meurt. Qu'est-ce qui marche sur cette façade, sur cette orientation? Et c'est un lien de conversation. Il y a plein de gens qui vont maintenant en ville dans des jardins partagés pour partager des choses, en fait, pas simplement pour mettre son compost, parce qu'à ce moment-là, on le met dans un truc et puis on voit personne, on dit ni bonjour ni au revoir. Il y a un vrai lien de sociabilisation, je trouve. Et là, clairement, sur Internet, franchement, pendant les premiers confinements, donc moi toute seule à pas sortir en plus enceinte, terrifiée, enfin, tout ce que tu veux, si j'avais pas eu cette communauté. Alors bien sûr, je discutais avec mes amis, hein, avec les moyens de communication qu'on connaît, mais franchement, je serais devenue dingue. Hein.
Ouais.
Je dis souvent aux gens, moi, la chaîne YouTube m'a autant appris que je vous ai appris.
Oui, tout à fait.
Parce que le jardinage extérieur, par exemple, quand j'ai commencé à investir mon balcon qui était donc dans mon ancien appartement, il y a eu plein de mamies qui me regardaient, qui avaient des jardins depuis des années et qui me donnaient des conseils et tout. J'ai appris plein de trucs.
J'ai perdu parce que j'avais une question que je voulais poser puis et après tu m'as
tellement rare ce blanc.
Non,
est-ce que tu nous as mis mal à l'aise?
Non, parce que je te jure, j'avais une question à poser, tu sais, quand t'écoutes pas les gens. Tu sais, quand d'ailleurs, j'avais vu un mec sur les réseaux dont c'est son métier d'ailleurs de faire des trucs de communication
dans l'écoute.
Ouais, il avait écrit un livre chez Erol, je crois, il faudrait que je le retrouve ce mec. Et il disait, vous savez, quand vous êtes en conversation, est-ce que vous écoutez vraiment les gens? Tu sais, quand tu écoutes quelqu'un, mais t'es déjà en train de penser à la question que tu veux poser. Et bien, j'étais en train de me réfléchir à cette question-là, et d'un coup, elle m'a appâtée dans ce qu'elle disait, et j'ai totalement viré la question que je voulais poser.
C'est donc une écoute active.
Écoute active, et donc du coup, la question que je voulais poser, bah là, il y a un blanc.
Voilà. Qu'on a tous ressenti. Est-ce que vous l'avez tous ressenti?
Il n'y avait pas vraiment de questions, mais c'était vraiment le côté. Je trouve ça intéressant de dire que pour toi, en fait, ton truc, c'est de la transmission personnelle. Toi, c'est vraiment ton truc, c'est dans qui tu es, son identité en fait. Tu aimes transmettre et ça, je trouve ça.
En plus, tu transmets à des enfants, mais les plantes, par exemple, tu transmets. Je trouve ça hyper bien parce que j'ai entendu plusieurs fois que tu dis, même à mes élèves,
Mais ça fait pas partie d'un programme, ça, d'avoir des plantes dans sa classe et leur apprendre, je sais pas moi, à bouturer. Ça vient vraiment de toi, c'est toi qui as envie de les initier au jardinage.
Bah, par exemple, un truc tout bête, mais dans les programmes, on doit apprendre la langue française, on doit apprendre l'autonomie et on doit apprendre un petit peu la confiance en soi. C'est à nous de trouver les moyens. Hein. Du coup, il se trouve que moi, j'ai des collègues à moi qui sont passionnés de musique, qui sont des musiciens, qui ont des groupes à l'extérieur et qui vont vachement développer là-dessus. Et l'avantage d'être en école primaire, c'est qu'on lit toutes les matières. Donc quand tu fais des sciences, tu fais aussi du langage. C'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu être enseignante dans le secondaire, parce que je pense que moi, mon caractère d'enseigner qu'une seule matière, pourtant j'adore l'histoire, c'est mon cursus universitaire, je me serais ennuyée. Et du coup, on peut amener. Moi, je crois, alors je suis persuadée que si on avait plus d'enseignants passionnés, en général, hein, même si t'es passionné de poignée de porte, on aurait des enfants davantage passionnés. Mais ça, c'est vraiment juste.
Non, mais je suis d'accord parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur ta chaîne, mais ça, c'est aussi du fait que je sois maman et d'une fille qui a sensiblement le même âge que ton petit garçon. Je sais pas si tu dis son prénom à chaque fois sur Instagram.
Je crois dans le podcast.
Et du coup, c'est vrai que moi, j'adore. Une de mes rubriques préférées sur ta chaîne.
Elle en parle tout le temps. De toute façon, là, tout ce que vous apprenez, moi, je suis fascinée avec ça. Vous savez pas, vous.
Ce sont tes
recommandations de livres.
Voilà, c'est exactement ça. J'adore tes recommandations de livres pour enfants. Et je voudrais que si t'en as un, c'est déjà pas énorme. Si t'en as d'autres ou que vraiment des livres que tu lis à ton enfant, à ton fils Louis au quotidien. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont comme nous et qui peut-être qu'ils en ont marre aussi de lire les choupis à leurs enfants. Et surtout que toi, c'est des beaux livres sur les plantes, etc. Est-ce que tu as des petites recommandations livres pour nous?
Oui, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est une série maintenant, ça s'appelle Le Jardin de Basilic. Alors il faudrait que je regarde les éditions, je m'en souviens plus. C'est pas mal, et notamment quand il commence à grandir, il y a une vraie histoire derrière, et puis c'est du documentaire. Après, t'as tous les Kiddie Doc, etc., toutes les collections, il y en a plein sur la nature, et puis du coup, après, les animaux, autre chose, machin. Mais c'est vrai que ça, c'est un livre que j'aime beaucoup et que j'aurais bien aimé écrire, tu vois.
Ah oui. Mais peut-être que t'as une petite carrière qui peut se développer, non? Parce que vu tout ce que tu nous partages, moi, je trouve que t'as une carrière à développer dans tout ce qui est de toute manière les plantes, certes, mais la maison, il y a un truc, tu sais, tu parlais de la nana de Jungaloo, là même je connais pas son prénom, si tu avais dit son prénom.
Justina,
qui elle a fait, moi je l'ai partie voir son truc qu'elle avait fait, c'était pour Target, je sais plus si c'était pour Target.
Ouais, elle a une collection
que j'ai trouvé hyper jolie, et j'avais même fait une commande, je l'ai pas acheté, j'avais une commande parce que comme Samuel, sa famille habite à New York, c'est vrai que c'est facile pour moi de, si je veux me procurer un truc à New York, etc., comme toi, tu peux facilement te procurer avec ta belle famille. Bon, après, j'ai dit, non, Marisa, arrêtons, je vais pas faire traverser l'Atlantique, un truc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était hyper original comme concept. C'était, donc, tu vois, la nana, elle a été contactée par Target pour pouvoir faire... C'est un truc qui se fait pas trop encore, je trouve, en France, mais t'aurais vraiment...
Par exemple, Monoprix en font de plus en plus des créateurs, des designers. Des collections, temporaires.
Ah oui, avec des designers, mais moi, je...
Pas avec des
créateurs de contenu.
Des créateurs de contenu.
Et ben, il y avait You Make Fashion qui devait en faire juste avant le confinement. Ouais, c'est tombé à l'eau, je crois.
C'est vrai. Il y avait You Make Fashion, c'est vrai qu'elle avait fait ça.
C'est vrai que c'est pas aussi répandu qu'aux États-Unis.
Ouais. C'est vrai que Target, ils ont tendance à très rapidement faire des collections avec des créateurs de contenu sur les réseaux. Ça se fait beaucoup. Mais moi, je trouve que t'as vraiment un univers, au-delà de la plante, t'as vraiment cet univers maison. Mes maisons dans tout, c'est-à-dire même les livres pour les enfants, la décoration, tu présentes aussi beaucoup de décorations, les macramés, enfin je veux dire, mais quelqu'un contactez-la pour en faire une super jolie collection de maisons, j'achèterai tout. Moi je veux la maison qu'elle a, je veux le coussin que t'as, tu vois, là je ouvre son livre, t'as beaucoup de, comment t'appelles ça, ces petits cerceaux là,
c'est des couronnes de fleurs en macramé.
Ça, je trouve ça hyper joli. Dans la chambre de ton fils, c'est absolument cute. Tous ces petits... tout ce qu'il a. Tu sais, il a son prénom avec en bois.
C'est un tricotin, ça. Et c'est une collègue à moi qui fait ça.
Ah oui ?
D'accord. Ouais, qui a lancé son... Ça s'appelle Les Petits Bonheurs de Mani. C'est une nana qui s'appelle Manila, qui travaille dans mon école en plus.
D'accord.
Qui travaille toutes les deux en REP+. Et qui a lancé son entreprise de tricotin. Et j'achète beaucoup chez elle.
D'accord. Mais c'est... Non, moi, je trouve ça hyper sympa. Donc, t'as de la carrière. Parce qu'on n'a pas parlé trop de ta vie d'entrepreneur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toi, t'es en congé parental, c'est ça qu'on dit ? Ouais, t'es en congé parental. Mais du coup, t'as aussi le statut d'auto-entrepreneur. T'as écrit ton livre.
Tu fais des vidéos. C'est avec ce statut, ouais, oui. J'ai eu mon statut d'autrice, du coup.
Enfin, ouais. Tu fais des vidéos YouTube. Tu as créé avec Jungle Paper aussi, bon, que j'adore. Oui. Grâce à toi, j'ai acheté aussi pas mal d'affiches de Jungle Paper. vous avez compris un peu ma source de pourquoi j'ai plus d'argent sur mon compte en banque.
mais c'est vrai que j'aime beaucoup les illustrations. Et ouais,
elles sont trop belles.
C'était l'occasion d'avoir un... En fait, donc on a sorti cette illustration l'an passé. Oui. Ça faisait déjà 2-3 ans que ma communauté me suivait et qu'on me demandait des fois soit du merchandising, soit un truc à avoir chez soi. Deux mois. Et c'est vrai que faire un truc, ça m'aurait posé problème. Et du coup, je voulais vraiment un truc qui me ressemble et pouvoir proposer quelque chose à ma communauté s'ils avaient envie. Et du coup, cette affiche, c'était une belle occasion, je trouvais, de retrouver mon univers chez les gens s'ils avaient envie.
Et ben, est-ce que toi, maintenant que tu es quand même aussi entrepreneur, est-ce qu'il y a un projet, ou tu peux ne pas le dire aussi si tu veux, mais est-ce qu'il y a un projet qui te ferait vraiment plaisir de créer avec ce statut que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu as une ambition derrière de peut-être. Je sais pas, toi tu dis que t'es dans la transmission, ça se trouve, toi ton métier, enfin c'est pas ça se trouve, j'ai compris que ton métier c'était vraiment une vocation, donc est-ce que tu préférais retourner, une fois que ton congé parental est terminé, retourner et faire de YouTube à nouveau ce hobby, ou est-ce que t'as quand même une certaine envie derrière, tu sais, un petit peu de dire, bah là où j'en suis maintenant, j'aimerais bien développer ça et d'aller un petit peu plus loin par exemple?
Et bien en fait je suis un peu partagée parce que j'ai vraiment envie que ça reste un plaisir et à partir du moment où on devient vraiment une entreprise avec son nom, donc c'est-à-dire on a, bah comme on disait, on vend des choses, je sais pas par exemple, là l'affiche ça tombe bien parce que c'était Pierre qui, donc Jungle Paper qui s'en occupait, donc c'est vrai que moi j'avais en ce qui concerne le SAV tout ça j'avais plus grand chose à faire et c'est vrai que c'est pas mon truc. Le livre c'est pareil, je suis passée par un éditeur, je l'ai pas fait de façon indépendante, pourtant j'aurais pu peut-être plus gagner d'argent ou autre, mais c'est vrai que je veux un peu le beurre, l'argent du beurre finalement, qu'est-ce qu'on veut, mais j'ai envie vraiment que ça reste un plaisir parce que sinon je pense que ça se verrait dans mes vidéos quand ça commence à devenir compliqué. D'ailleurs ça se voit par exemple, j'ai assez peu de partenariats finalement sur la chaîne, enfin quand je dis peu, s'il fallait comparer, je sais pas, je regarde pas énormément de non plus de chaînes YouTube différentes, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent parce que j'ai pas envie que ça devienne un souci, même si c'est très bien, c'est le bienvenu, ça fait un petit complément de revenu, mais voilà, j'ai pas trop envie de cette pression là, puis je suis en congé parental donc j'ai envie d'en profiter aussi. Après à l'avenir, je pense que ma place elle est vraiment dans une classe, donc je reprendrai mon métier. Est-ce que si j'ai l'opportunité peut-être de reprendre à temps partiel pour peut-être continuer mon activité à côté 2 jours par semaine sur les réseaux, je sais pas du tout. C'est vrai que ce truc vraiment ça a démarré sur YouTube, vraiment c'était pas du tout, voilà, une envie de carrière ni je sais pas quoi, donc je m'adapte un petit peu au jour le jour et c'est vrai que de travailler toute seule chez moi, ça va, je pense que ça va m'aller un temps, même si je discute avec des gens comme vous aujourd'hui et ça me fait développer plein de compétences. Je pensais pas faire du montage un jour, je pensais pas créer du contenu pour d'autres marques un jour, je pensais pas faire des devis, enfin c'est hyper intéressant, mais je pense que ça s'est goupillé à un bon moment de ma vie, donc c'est-à-dire la grossesse, le confinement et ensuite le congé parental. Du coup, dans la journée, je parle avec des adultes, je parle pas que avec mon fils. Ça, c'est cool. Donc, j'avoue que pour l'avenir, j'ai un peu, bah, comme on dit, voilà, créer une ligne de déco, par exemple, chez Monoprix. Ça pourrait être le rêve. C'est pas moi qui m'en occuperais, c'est eux. Ça peut être rigolo. Mais j'avoue que ça me paraît... je me ferme pas de porte, hein, mais peut-être que je suis pas assez ambitieuse non plus. Vous voyez, peut-être que c'est pas dans ma façon d'être. Je sais pas du tout. Non, après, ouais, j'aimerais bien un jour faire un livre pour les enfants, c'est clair, ouais. Que ça, ou quelque chose, une petite collection pour les enfants, ça pourrait être sympa, je pense. Je sais pas du tout.
Mais ouais, je me ferme pas de porte. Hein. Non, c'est vrai que. Bah, moi, je trouve que c'est en tout cas quand tu dis je suis pas assez ambitieuse, enfin, tout dépend déjà, après où est-ce qu'on voit ce que c'est l'ambition, mais déjà. Éduquer toute cette future génération, c'est très ambitieux parce que tout le monde ne le fait pas et pas que pour le salaire, hein. ça n'a pas toujours rapport avec le salaire, mais c'est souvent parce que c'est pas facile. Oui, donc non, pour moi l'ambition n'est pas juste d'être
entrepreneur ou... gagner plein d'argent, ou l'ambition ça dépend, oui, ou ce qu'on met le truc, mais tu vois, par exemple, Isadora et moi, le petit truc secret que tu sais, la petite ambition secrète que tu as, c'est qu'un jour, tu sais, puis faire l'émission télé, tu sais, enfin, pas forcément télé, mais une émission ou un peu à la Queer Eye, tu vois, je sais pas si tu vois Queer Eye. Mm-hmm. Tu vois, moi, ça serait une émission où on va justement chez des gens qui qui ont envie de mieux s'alimenter, etc. Et qu'on vienne pouvoir, avec plusieurs experts, tu vois, booster leur confiance en elles, leur montrer aussi les trucs, les gestes, etc. Donc nous, c'est un peu notre truc.
Ça fait tellement d'années qu'on le dit.
Ça fait des années qu'on en parle. Quand j'ai vu Queer Eye la dernière fois, je connaissais pas du tout cette émission, pas du tout sur Netflix. Quand j'en ai entendu parler, je suis partie regarder. J'ai dit, oh, ça me donne encore. Quand je vois cette émission, je suis en train de me dire, mais mon Dieu, mais je veux faire ça, tu vois. Donc c'est un peu, tu sais, cette ambition secrète qu'on a parfois un peu. Tu dis, ça se trouve, ça va jamais se faire.
Ou le café.
Et ouvrir un café, c'est un truc qu'on adorerait aussi.
Bien aussi. Ouais, un café ça, fleur. Mais bon, c'est beaucoup de. Là encore, il y a ce qu'on veut et ce qui nous convient.
Exactement.
C'est-à-dire, c'est des horaires de fiches. Ouais. C'est le commerce, quoi.
Exactement. Ouais. Et c'est très fausse quand tu dis, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ça comme ça, ce que l'on veut et ce qui nous conviendrait. Et c'est vrai que Dora et moi, il y a quelques mois, on s'est dit, allez, on va ouvrir un café sur Angers, nanana. Et puis d'un coup, tu commences à faire le truc et tu te dis, c'est ce que je voudrais, oui. C'est quelque chose que j'imagine tellement, on imagine tellement les trucs, mais est-ce que ça correspondrait à qui
à mon rythme
sommes
de vie. Non. N'oublions pas que moi, je suis quelqu'un qui aime faire la sieste, qui aime être
chill aussi.
Chill. Déjà que la vie d'entrepreneur de ces dernières années ont été beaucoup trop rythmées par rapport à mon tempérament. J'ai appris ça en 7 ans, et il faut bien qu'à un moment donné, on ralentisse. Mais aujourd'hui, me relancer dans un truc d'entrepreneuriat en plus dans le commerce, alors que déjà j'ai deux flébites, trois flébites dans mon actif juste parce que j'étais entrepreneur, je te fais une crise cardiaque. Ouais.
Donc il y a des petits, c'est vrai, il y a des petits rêves secrets comme ça, tu dis peut-être un jour,
peut-être
mais
dans
en
une
cas,
étape
pas...
de vie. Ouais. Tu sais, on n'a que 34 ans, donc peut-être qu'à 40 ans, j'ai envie de créer mon petit commerce, peut-être il y a d'autres étapes de vie.
Non, c'est vrai. Est-ce qu'on avait vu toutes les petites questions? Attends, je regarde parce que...
Bah, on a quand même fait déjà pas mal le tour.
Oui, c'est bon. C'est bon,
ça donne envie, en tout cas, moi. Alors, attendez, les amis. Je suis allée directement, pendant que tu parlais, sur Vinted. Et j'ai trouvé le jardin de basilic. Il n'y en a qu'un. Je vais le commander tout de suite.
4 euros.
Oh, il est trop mignon.
Il est trop chou. Les fleurs tombent-elles amoureuses?
Ouais. Bah là, tu vois, ça parle un peu de la reproduction... et du développement végétal, mais de façon hyper ludique. Non, ils sont vraiment très très beaux, les illustrations. Donc comme je parle très souvent d'illustrations sur ma chaîne parce que j'adore ça, elles sont très très belles et voilà. Après je craque beaucoup pour les bouquins d'enfants, hein, mais on est toutes pareilles, je crois.
Oui, mais moi les bouquins d'enfants c'est grosse passion, mais là ce livre là et en plus Isadora, c'est vrai que elle a le réflexe que je n'ai jamais du tout. Moi je vais directement en librairie immédiatement. Isadora elle a le réflexe Vinted à chaque fois, donc
tout
là elle l'a déjà vu sur Vinted
appuyer sur acheter
précisément. Elle a acheté en direct, mais en tout cas je vous conseille vraiment, si vous ne connaissiez pas Marion, même si je pense que beaucoup de gens de ta communauté vont venir écouter l'épisode aussi, si vous la connaissiez pas, allez voir sa chaîne YouTube. Sauf si vous n'avez pas envie de trop dépenser. J'ai oublié de le dire, Marion, parce que quand même...
C'est vrai que j'essaie de réduire un peu le contenu de... Alors, je fais jamais de haul sur ma chaîne,
quasiment jamais.
Mais c'est vrai que quand ça s'y prête dans un vlog à la semaine, je vais forcément montrer ma petite trouvaille ou trucs comme ça. J'essaie de réduire un peu, surtout que souvent, il n'y a aucun lien affilé ni rien. Donc en plus, je fais
c'est
ça.
Clair.
Il n'y a aucun...
Comme nous. Hein. Non, c'est que moi, j'adore de te faire, parce que même si moi, j'achète pas tout. Après, on est tous des adultes. Hein, t'achètes... Moi, j'achète pas tout ce que tu...
Mais ça inspire.
Mais ça m'inspire énormément. Ça me permet aussi de découvrir des nouveaux créateurs, parce que tu parles beaucoup aussi de petites entreprises. Donc ça, c'est super chouette, je trouve.
Souvent de créatrices. D'ailleurs, il y a un vrai côté sororité dans ma vie. Et du coup, sur la chaîne. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un peu comme une copine qui vient à la maison. Ah tiens, regarde ce que j'ai acheté.
C'est
génial.
C'est
ça. Voilà, en fait.
Et en plus, je trouve que c'est de l'influence de ma part. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de plutôt très sain. T'as une chaîne où c'est pas acheter des trucs dont tu n'as absolument aucune idée. Tu sais, il y a parfois sur des chaînes, tu vois des choses, tu dis, mais dans ton quotidien, vraiment, tu utiliserais ça?
Si on veut commencer une chaîne YouTube, alors là, je parle peut-être plutôt aux entrepreneurs qui sont sur les réseaux, ou un compte. Qu'est-ce que moi, j'apporte? En fait, alors peut-être que j'apporte rien, mais c'est pas grave, j'ai envie de le faire, j'ai envie de partager et tout. Mais si on a envie que ça prenne de l'ampleur, ça crée une communauté, et on me demande, des fois je reçois des messages, c'est quoi la clé, comment t'as fait? Mais alors là, les gars, j'ai aucune. Faut juste être soi, hein, parce que les autres sont tous pris. Donc, soit ça plaît, soit ça plaît pas, ça c'est important, hein, faut bien se le mettre en tête, ça vaut dans la vie en général. C'est pas un échec si ça plaît pas, c'est juste que voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce que j'ai apporté, moi? Est-ce que c'est juste mon univers? Parce que, voilà, des infos sur les plantes, ça existe. Est-ce que c'est, peut-être le côté ludique? Essayer de réfléchir aussi à son type de contenu. Tiens, Et par contre, si c'est fait et refait, et que ça nous fait plaisir, il faut le faire, il faut poster. Mais si on a l'impression que ça démarre pas, que ça machin, il faut peut-être se poser cette question-là. Peut-être que le contenu est déjà disponible et peut-être même mieux fait, parce que la personne, peut-être ça fait plus longtemps qu'elle fait, elle a un meilleur équipement, elle a j'en sais rien. Hein. Et sinon, bah ouais, se lancer, moi, si j'avais à dire.
Et rester, oui, c'est sûr qu'il faut rester soi, et parce que ça se sent énormément sur les vidéos quand c'est quelqu'un qui joue un rôle, ça se ressent. Quand tu es vraiment toi, même s'il y a des choses que... Nous, par exemple, quand on avait commencé les blogs entrepreneurs, personne ne faisait ça en France. On se disait, il y avait peut-être peu de chances que ça fonctionne et que les gens regardent ça. Mais nous, ça nous faisait kiffer. Nous, on avait envie de partager ça. Et on se dit, bon, bah écoute, on le fait. Ouais. Et puis, ça prendra. Ça prendra peut-être pas. Mais moi, je me dis, d'un côté, je pense qu'il y a quand même une demande. Peut-être des gens qui ont envie de savoir comment ça se passe à l'intérieur d'une entreprise. Donc, ouais, non, c'est intéressant. Mais ça, par rapport au fait que je parlais tout le temps en anglais, c'est parce que ce matin, j'ai écouté un épisode de podcast très long en anglais. Donc, du coup, les mots, là, depuis, me viennent relatable et tout. Oui. Comment tu dis, d'ailleurs, relatable
ça n'y a pas de traduction.
Voilà, ça, c'est des mots qui parfois sont. J'ai du mal à trouver.
On se sent proche de la personne.
Voilà. Être proche de la personne, relatable.
Huit mots pour un seul.
Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, bref. Merci beaucoup, Marion. Il est l'heure d'aller manger. Oui.
Oui, tous. Très bien. Oui. Bah, merci en tout cas pour cette invitation. C'était hyper intéressant.
C'était trop cool. J'ai adoré l'épisode. Cette petite conversation. 1h43, c'est tout. Merci. On se dit à très bientôt, et comme on vous a dit, vous pouvez aller directement voir la chaîne YouTube de Marion Botanico. Je vais le dire tout bas. Son compte Instagram, et vous pouvez trouver son livre à peu près dans toutes les librairies, je pense, de France et de Navarre.
Cette nouvelle phrase. Même en Belgique, au Québec, à certains pays d'Afrique du Nord, ils ont commencé à le trouver un peu, c'est cool.
Trop bien. Et on vous dit... À très bientôt. Ciao.
Ciao.